Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu. Le Rendez-vous Jeu, c'est l'émission où on vous résume toute l'actualité, j'allais dire tech, internet et gadgets, mais ça c'est un autre, une autre émission. Donc on vous résume toute l'actualité jeux vidéo, gaming, mobile, industrie, surtout avec un petit peu d'analyse, ou du moins on essaye. Et aujourd'hui, je reçois un invité que je suis très heureux d'avoir avec moi, puisqu'il s'agit de Benoît, alias Exerve. Comment vas-tu Benoît ?
Bah écoute, salut Patrick, ça va super. Je suis très content de participer également au rendez-vous jeu, du coup pas tech. Hein, je vais, ouais. Je viendrai peut-être un jour au rendez-vous tech après tout.
Non, ça pourrait, oui.
Je serais peut-être moins pertinent, mais bon, on sait jamais.
Bon, c'est vrai que les gens te connaissent peut-être sous le nom de Exerve pour tes pérégrinations youtubeuses ou game culteuses. Moi, j'ai l'habitude d'appeler les gens par leur prénom, donc je sais pas si tu vas savoir quand je dis « Et donc, Benoît, t'en penses quoi ?» Je sais pas si tu vas te rendre compte
que c'est à toi que je parle. Normalement, on est que tous les deux, donc si je t'entends dire un prénom, je pense que c'est le mien.
Voilà. Très bien. Bon, bah, les choses sont simples. C'est magnifique. Et donc, on va vous parler de pas mal de choses aujourd'hui et de choses attendues et peut-être un tout petit peu moins attendues. Il y a bien sûr The Witcher 3, l'extension de Destiny, des histoires avec Konami encore et puis un petit peu de hype E3 et plein de petites news en plus. Et puis un truc un petit peu moins attendu, je pensais pas que je le mettrais au tout début de l'émission et que je serais tellement excité, c'est le Stunfest, duquel tu reviens d'ailleurs, tu le couvres pour Gamekult si je ne m'abuse, tu reviens ce matin du Stunfest.
Ouais c'est ça, bah écoute je suis arrivé quelques heures avant qu'on enregistre. Et du coup, ça s'est terminé hier soir. C'était un long week-end, très très éreintant. On aura l'occasion de se le redire.
Bah justement, bah lançons-nous en fait. Le Stunfest, c'est quoi ? C'est un festival compétition jeux vidéo orienté jeux de combat. Et c'est un truc qui est franco-français et qui a grandi au cours des années qui sont écoulées. Au début, c'était juste un petit rassemblement sympathique entre fans de jeux de combat et maintenant c'est un gros festival conférence sur les jeux vidéo, c'est à Rennes et moi j'aurais adoré y aller et malheureusement j'ai pas pu. Je sais que Florent qui m'aide beaucoup sur la mise en ligne des émissions y était, lui c'est un vrai Rennois, il y était et il m'avait suggéré d'y aller.
Rennais. Ouais, il me semble.
Voilà. Bah, écoute, puisque tu fais le malin, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du Stunfest, de ce que c'est, d'où ça vient et ton expérience sur place? Je précise juste que donc, moi, j'aurais adoré y aller, mais comme je pars en voyage demain, j'ai pas pu, c'était compliqué. Et hier soir, et on va y revenir, hier soir, j'ai vu la finale et là, mais c'était l'horreur du fait que j'y sois pas. J'imaginais pas que c'était aussi gros et que c'était aussi excitant. Et on vous parlera de la finale, la grande finale de Street Fighter. Mais avant ça, donc, un petit résumé du Stunfest, de ce que c'est et d'où ça vient.
Bah écoute, moi de ce que j'en sais, c'est la deuxième année que j'y participe, ça fait la deuxième fois, donc la 10e et 11e édition là, qui vient de se terminer hier du Stunfest, ça se déroule au Liberté, c'est un grand bâtiment en plein centre-ville de Rennes, c'est immense, et de ce que j'en sais, pour avoir rencontré pas mal de monde qui y allait depuis le tout début, comme tu disais, au tout départ, c'était un petit rassemblement de fans de jeux de baston, et rapidement, donc je crois que dès le début, c'était sous la houlette de l'association 3Hit Combo, qui est une grosse association de mise en avant du jeu de combat en France, etc. et qui sont du coup en grande partie basés là-bas. Et petit à petit, ça a gagné de l'ampleur au fur et à mesure des années. On est passé d'un terrain vague à des sous-sols de parking, à une espèce de bâtiment étrange en marge de Rennes. Et depuis 2 ans, ça se passe au Liberté. Les gens qui veulent taper Liberté Rennes dans Google, ils vont voir que c'est vraiment une sorte de mini parc des expos avec en fait une énorme scène pour des concerts dans lequel t'as vu du coup les finales de jeux de baston qui se déroulaient là-bas.
C'est ça, ouais.
Et au départ,
la chose qui m'a le plus surpris, en fait, je vais pas dire choqué, c'est que cette salle, effectivement, est immense, immense. Moi, j'ai toujours eu cette image du e-sport en jeu de combat qui était un petit peu en retrait par rapport au e-sport RTS type StarCraft ou même les MOBA comme League of Legends ou Dota. Et là, il y a une sorte d'atmosphère, d'ambiance différente pour l'e-sport jeu de combat. C'est un petit peu plus... l'ampleur est moins grande. Il y a beaucoup de gens d'horizons divers qui sont un petit peu moins prompts à s'organiser et à rendre la chose très commerciale. Donc je me disais, bon, bah, il y a des salles comme on voyait souvent à l'Ivo, où c'est des grandes salles de bal, quoi, plus que des salles de concert. Puis il y a plein de monde, c'est un petit peu le bordel, il y a du monde partout. Là, c'était une salle de concert et elle était pleine. Quoi, c'était des milliers de personnes.
Bah, je sais pas exactement combien il y a de personnes, mais ouais, en gros, il y a tout un parterre de Transat, puisque ça, c'est la marque de fabrique de Rennes, du Stunfest. En gros, à l'origine, l'anecdote veut que ils ont réussi à négocier avec la mairie à l'époque d'avoir des Transat pour faire asseoir les gens, et du coup, c'est resté la marque de fabrique, tu vois. C'était même, comme il y a souvent, depuis 2 ans, il y a du financement participatif, les gens qui pledgent un peu plus, tu vois, ils avaient même le droit à une version personnalisée avec leur pseudo ou leur nom, ce qu'ils voulaient. Et oui, il y avait énormément de monde, et le pire, c'est qu'il n'y a pas que du jeu de baston. C'est-à-dire que toi, t'as vu cette énorme salle. Sur cette même scène, il y avait donc du super play. Il y avait des présentations également de performances sur du shoot'em up.
Ouais, explique ce que c'est le super play. Je suis pas sûr que tout le monde connaisse.
En gros, c'est une pratique de jeu vidéo qui est orientée performance. C'est-à-dire que d'un côté, on a l'e-sport qui va vraiment s'orienter autour de tout ce qui est discipline sportive avec le côté compète et tout. Le super play, c'est plus individuel, on va dire, puisque c'est le fait de chercher à faire le meilleur temps. Ça, c'est du speedrun sur un jeu vidéo. Le fait de faire le meilleur temps, mais avec des outils, on appelle ça du TAS, du tout assisted speedrun. Il y a aussi du scoring, hein, du super avec tout ce qui va être shoot'em up, tu sais, les jeux japonais, ouais, avec des boulettes partout dans l'écran.
Et le tool assisted scoring, c'est le tool speedrun. Assisted speedrun, pardon, ouais. C'est les trucs qui vont ralentir, c'est ça, le jeu pour que tu puisses sauter exactement là où tu veux, pile au pixel près, c'est ce genre
c'est ça. Et là, il y avait des présentations même de tool de TAS, hein, puisque du coup, ça va être plus simple de dire l'acronyme. Ouais. Il y avait des présentations de TAS où il y avait donc parmi les tasseurs français, notamment Kilaï, là, qui bosse au Nesblog, qui présentait un petit peu comment ça fonctionne, avec effectivement, comme tu l'as dit, des logiciels pour du coup répéter en boucle des mêmes séquences de quelques frames pour voir exactement ce qui se passe, pour anticiper des réactions de l'IA et faire en sorte que, au lieu d'avoir une chance à 4% qu'il se passe un truc, ça sera 100% quoi qu'il arrive, etc., etc. Le speedrun classique, ça, c'est très en vogue, hein, forcément, sur Twitch, puisqu'il y a eu aussi des gros événements comme la GDQ, SGDQ, qui sont des marathons caritatifs. Ouais. Et en marge, en plus du super play, il y a, parce que du coup, tu vois, c'est un gros festoche, il y a donc eu 3 journées de conférences qui se tenaient avec beaucoup d'universitaires, de philosophes, de développeurs, de gens de tous milieux et de tous horizons. Également, donc, une énorme partie réservée à des développeurs indés. On y reviendra, je pense, un peu après. Et également à des associations diverses et variées. Tu vois, genre, ceux qui organisent les championnats du monde de Mario Kart étaient là, Windjammer France était là, etc., etc. C'est vraiment un gros truc j'allais dire bigarré, quoi, tu vois, vraiment bien diversifié, quoi.
Bah justement, parlons-en un petit peu de ces conférences. Moi, c'est un aspect que je connaissais pas du tout, en fait, que tu m'as appris quand on en parlait. Moi, je croyais que c'était uniquement une compétition e-sport. Et en fait, il y a tout un tas de conférences qui sont comparables à des conférences qu'on peut avoir dans n'importe quelle conférence, justement. C'est pas juste une compétition. Il y avait quel type de conférences auxquelles on pouvait assister, en fait?
Bah écoute, c'était vraiment des sujets divers et variés. Ça fait depuis la, je crois, 6e ou 7e édition qu'il commence à y avoir ça. Et l'idée, c'était que les membres du Nesblog, en fait, qui est une petite SARL qui bosse notamment sur jeuxvideo.com, est vachement investi, en fait, dans le projet Stunfest. Et ils ont commencé à inviter des universitaires de tous horizons à l'époque. Et là, pour cette année, bah écoute, moi, j'ai pu animer et modérer deux confs. Comme ça, je te donne le sujet, c'est plus simple. Une qui se posait la question de savoir dans quelle mesure il y avait une expérience contemplative contemplative dans les jeux vidéo, et une autre là qui était beaucoup plus longue, où on a parlé plus de 2h30 avec notamment Sébastien Guenvaux, qui est un auteur et un game designer très connu, Pierrec, qui est un journaliste qui s'occupe de tout ce qui est expérimental, Brice Roy, qui est un développeur de jeux expérimentaux également, Dorian, qui bosse au Nesblog. Et tu vois, par exemple, on a parlé de jeux expérimentaux pendant 2h30, de se poser la question de voilà, de qu'est-ce que c'est, est-ce que ça permet de, tu vois, de rapprocher le jeu vidéo d'un art, étant donné qu'il y a toute la partie expérimentale dans les arts, enfin ça, il y avait une conf sur la représentation des minorités, que ça soit de genre, d'éthique, de culture, etc. Il y avait quelque chose sur la notion de mort et de deuil, il y avait des choses sur la gamification de la société, il y avait vraiment beaucoup de choses cette année.
On peut voir le programme, effectivement, je donne le nom du site quand même, stunfest.fr. Il y a des trucs du genre, y a-t-il du jeu sans enjeu, qu'est-ce qu'un jeu expérimental, justement, l'érotisme et la pornographie dans le jeu vidéo, et arrêter de rigoler comme des chèvres, c'est des sujets sérieux, etc., etc. Donc il y a effectivement toute cette partie hyper sérieuse qui est carrément, qui me fait encore plus de peine de pas avoir pu y être allé.
Et en
quoi.
Plus, c'était blindé, parce que là, du coup, d'habitude, ça se passait au même endroit. Là, il y avait tellement de choses aux libertés qu'on a dû déporter les confs, et elles se retrouvaient en fait en face, parce que c'est une énorme place, donc tu imagines de l'autre côté de la place de Rennes, là, ou dans une maison des associations, où là, c'était un amphithéâtre. Enfin, t'imagines un auditorium avec une scène, un truc comme 350 sièges siège, et puis bah, des gens qui sont assis même sur les escaliers, parce que du coup il y avait vraiment beaucoup de monde pour écouter, bah, notamment samedi et dimanche, c'était blindé quoi.
Ouais, bah écoute, c'est en tout cas un truc sur lequel vous pouvez garder un œil, parce que déjà c'est devenu énorme, et il y a de fortes chances, vu le succès qu'ils ont eu cette année, que ça continue à grossir. Donc je le vois bien devenir un festival de jeux vidéo majeur de France, enfin il l'est déjà, et peut-être même plus, parce qu'ils ont l'air de grossir au-delà de leurs sources, de leurs origines, du simple truc de jeu de combat quoi. Et ouais, pardon, vas-y.
Non, je disais, ben ça, après, ça va être un peu compliqué, parce que le souci, c'est que ça va commencer à devenir très cher. Là, ils sont juste chaque année, malgré le financement participatif, malgré des subventions de la ville ou de la région, ils auraient envie de grossir plus, mais ça va pas se faire si vite que ça en réalité.
Ouais, bah disons que c'est en tout cas un gros succès, et moi je pense qu'il mériterait d'aller plus loin. Et c'est sûr qu'ensuite les festivals ou les conférences ou les salons, c'est pas toujours facile à gérer, mais bon. On verra comment ça se passe l'année suivante. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette année, c'était très impressionnant. Et en particulier, moi, ce dont je voulais parler, c'était cette grande finale d'Ultra Street Fighter 4, qui est, je pense pas mentir en disant qu'Ultra Street Fighter 4 et Street Fighter 4 a réussi à redevenir l'ambassadeur du jeu de combat, en particulier en e-sport, dans le monde. Hein. C'est vraiment... Il y a plusieurs jeux qui sont... C'est marrant parce que le jeu de combat est un petit peu plus divers pour les jeux comme pour le reste, mais pour les jeux que les jeux, les RTS ou les MOBA, où il y en a généralement un ou deux par catégorie. Jeu de combat, il y en a plusieurs. Il y a Street Fighter, il y a Tekken, il y a Guilty Gear, même pour les plus petits. Enfin, il y a même Mortal Kombat, même si ça me fait un peu mal. Même si j'aime bien le jeu, disons qu'en e-sport, c'est pas forcément le plus technique.
Bah là, encore en l'occurrence, en fait, c'était surtout que Warner avait mis quelques billes dans le Stunfest, Capcom également, puisqu'en fait, le Stunfest, cette année, c'était une des étapes du Capcom Pro Tour, qui est le championnat du monde organisé autour des différentes versions de Street, puisque du coup, tu l'as dit, il y a Street 4, enfin USF 4, maintenant, parce que c'est la version ultra qui est la plus jouée, mais il y a Street Fighter, donc First Strike 3.3, qui est également encore énormément joué, Street Fighter 2X, qui est toujours la vieille version avec des vieux de la vieille qui continuent d'y jouer depuis plus de 15 ans, et qui est d'ailleurs à un niveau très relevé. Mais ouais, bah, il y avait énormément de choses. Il y a eu une section sur Smash Bros, il y avait du Tekken Tag, il y avait Mortal Kombat, tu l'as dit, il y avait du Guilty X-Ferd, je crois pas qu'il y avait de BlazBlue par contre cette année, et donc bah, Ultra Street 4 avec une délégation d'une vingtaine d'Asiatiques qui, pour la plupart, se sont déplacés d'eux-mêmes, parce que ça fait quelques années qu'ils ont leurs habitudes de prendre des quartiers, j'allais dire d'hiver, mais tu vois, de début d'été à Rennes, et il y en a notamment qui viennent, comme ça, de leur plein gré, en France à chaque fois, pour participer au Stunfest, parce que l'ambiance est tellement bonne qu'ils reviennent avec plaisir.
Et en l'occurrence, on a eu droit à une grande finale dans la tradition des meilleures grandes finales, les plus excitantes de tous les événements de sport de l'histoire. Puisque, alors moi je l'ai suivi de loin, tu vas me dire si je me trompe, mais il y a eu une finale entre Daigo et Momochi, qui sont deux très grands joueurs de Street Fighter, et Daigo qui est même plus qu'un grand joueur, qui est une légende. On ne peut pas évoquer l'aspect spectaculaire de Street Fighter sans parler de cette vidéo qui a fait le tour du monde des millions de fois de Daigo à l'Evo, qui est donc l'autre tournoi dont je parlais, Evo 2004 je crois.
Ça date un peu. Hein.
Ouais, ça date un peu, mais je pense qu'on l'a déjà évoqué même dans cette émission. Si vous l'avez pas, si vous l'avez jamais vu, c'est avec Street Fighter 3. À un moment, il y a Daigo qui est dans les cordes, qui n'a quasiment plus de points de vie, qui joue contre Justin Wong, qui est en train de le battre avec Chun-Li. Et je vous résume, Justin Wong fait le truc le plus petit de l'histoire, mais évidemment c'est normal, c'est un gros championnat. Il met la super de Chun-Li, et là Daigo part activement absolument tous les coups, et il y en a une quinzaine en 5 secondes, donc c'est hyper compliqué. Il part tous les coups de manière à même pas se prendre les mini dégâts de coups spéciaux. Il part tout, il saute, il part un dernier coup, il retombe et il fait un enchaînement, une combo parfaitement maîtrisée qui tue son adversaire et il gagne le championnat. C'était mémorable, et encore une fois, si vous tapez Evo 2004, vous allez tomber dessus sur YouTube, c'est un moment unique de l'histoire du jeu vidéo, vraiment. Et là, bon, ça n'a pas été jusque-là, mais Daigo, c'était un tournoi en double
quand même,
élimination.
Hein, ouais, parce que du coup, il est, je coupe, mais il est remonté de la loser bracket, c'est tu ça. Sais, donc ceux qui avaient perdu, en fait, ont toujours une possibilité de remonter, et il faut par contre gagner deux matchs d'affilée pour pouvoir remonter en winner, et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'avait fait d'ailleurs Luffy l'année dernière à l'Evo.
Oui, Luffy qui était le français,
le joueur
qui
a gagné l'Evo, voilà, l'Evo pour la première fois. Là, cette année, il n'a pas eu des bons résultats. Mais ouais, c'était rigolo de voir Daigo à ce niveau à nouveau, parce que ça fait très longtemps qu'il est dans le circuit. C'était peut-être pas forcément celui sur lequel les gens auraient le plus parié, en fait.
C'est sûr. Et là, en l'occurrence, moi, je suis tombé sur un tweet de Kayane qui disait « Ah, la grande finale est maintenant. » Donc, presque par hasard, je suis tombé dessus. Je vais vous donner mes secrets de mon intimité. J'étais aux toilettes et j'ai lancé le truc et j'ai pas déscotché. Mais jusqu'à la fin, c'était incroyable, quoi. Daigo, je suis tombé donc au début sur les premiers matchs, et il était en plus au début, Momochi gagnait, donc il suffisait que Momochi gagne un match qui se constituait de plusieurs, un round qui se constituait de plusieurs matchs eux-mêmes divisés en combats avec deux rounds. Donc il avait quand même, il y avait beaucoup de chemin à parcourir. Et au final, il y a eu des allées et des venues. Et sur la fin du premier round, donc du début, pour que Daigo puisse avoir la possibilité même d'en gagner un second ensemble de matchs pour gagner, puisqu'il était dans la poule des perdants, à la fin, il s'est déchaîné, mais il a fait des trucs hallucinants. C'était le genre de truc où... j'ai quand même mis en pause, je suis sorti et je suis venu regarder sur mon grand écran. Et c'était des trucs, mais je poussais des cris, genre comme devant un match de foot. Ma femme est carrément venue me voir pour me demander ce qui se passait. J'étais devant l'ordi j'étais mais non, c'est pas possible, mais non. Et j'étais super, super excité. Il y a une vidéo sur Twitch. Si vous voulez y aller, je suis sûr qu'elle sera sur YouTube aussi, mais c'est sur twitch.tv/asso3hitcombo. Et c'est là, vous pouvez la voir encore pendant quelques temps.
C'est d'ailleurs 48... déjà dispo sur YouTube, hein, si jamais.
Ah bah elle est déjà, d'accord. Bah,
ouais, sur la chaîne 3Hit Combo, tu peux la trouver, il y a tout.
Bah voilà, c'est super. Et c'est à, s'ils mettent le truc complet, je crois que c'est à 48 minutes 20, en tout cas sur Twitch. Mais regardez tout le truc, même si vous n'aimez pas les jeux de combat, c'est un truc, c'est tellement excitant. Si vous comprenez un tout petit peu les jeux vidéo, vous allez comprendre ce qui se passe. Et c'est, enfin, je sais pas, moi, j'imagine pas l'ambiance qu'il y avait dans la salle, Benoît.
Ah bah c'était un truc de fou. Hein. Moi, j'ai juste vu justement les derniers matchs. Alors c'était pour mitiger un peu, on va dire modérer le propos sur le Stunfest. Malheureusement, il y avait, dis-toi, un truc comme quasiment 400 participants à ce tournoi de Street 4. Donc ça fait quand même, je crois, 6 ou 7 poules de je sais plus combien de joueurs. Ça faisait vraiment beaucoup. Et le problème, c'est que sur la grande scène, tout le monde était un peu sur sur sa fin parce qu'on a vu que les 4-5 derniers matchs, tu vois. La vidéo de Twitch que tu vois d'une heure, on a vu finalement qu'une heure de street, alors que dimanche aurait pu être réservé qu'à ça. Moi, j'ai pu voir le match contre Momoshi. Après, j'étais parti faire autre chose que, comme on disait, il y avait tellement d'activités. Moi, j'étais pas forcément disponible pour aller voir les matchs. Et ouais, l'ambiance, tu peux l'imaginer, hein. T'as des centaines de personnes assises dans leur transat, d'autres centaines de personnes assises partout, et d'un coup, tout le monde se lève, tout le monde gueule. T'as Ken Bogard, là, le commentateur qui commence à, évidemment, lui, il participe également beaucoup à la compréhension et à l'animation du truc. Et c'était une ambiance comme on voit tous les ans au Stunfest. Mais bon, je vais pas te retourner le couteau dans la plaie. Chaque année, il se passe des trucs comme ça. Ouais. L'année dernière, c'était Justin Wong, dont t'as parlé tout à l'heure, qui avait remporté vraiment assez facilement, mais il avait quand même eu quelques difficultés face notamment à 2-3 Japonais. Là, cette année, vraiment beaucoup de types qui étaient venus d'Asie, des Coréens, des Japonais, etc. Des gros noms, vraiment, il y avait énormément de monde. Et c'est vrai que de voir des gars comme Infiltration, tu vois, c'est normal de les retrouver à ce niveau-là. Momoshi, pareil. Daigo, ses derniers résultats étaient peut-être pas forcément à la hauteur de la légende. Parce que, en même temps, ça fait 15 ans, 20 ans qu'il fait ça, le gars. Il n'est pas toujours, tu sais, c'est un peu en dents de scie. Et ouais, le match là contre Momoshi, c'est contre Ken. Daigo, lui, il joue Evil Ryu. Il est passé de Ryu à Evil Ryu. Et il se passe des bons trucs. Je suis pas technique en jeu vidéo, donc je pourrais pas t'en parler plus que ça. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est très impressionnant.
Ouais, mais effectivement, on avait, et en plus, il y a aussi un facteur émotionnel, quoi. C'est le fait de voir le retour de Daigo, qui est une vraie légende, un titan de cet univers. Quand on le connaît depuis justement ce truc qu'il a mis sur le devant de la scène à l'Evo 2004, et c'est vrai qu'il a eu une carrière en dents de scie un petit peu. Moi, je me souviens que à la PAX 2013, je passais devant un stand, c'était Mad Catch, je crois, ou un truc comme ça, et il y avait des matchs de Street Fighter, et je m'arrête, il y a quelqu'un, je l'ai peut-être déjà raconté dans cette émission, mais il y a quelqu'un qui me dit: ah ouais, t'aimes bien Street Fighter? Là, regarde, c'est Daigo qui joue. Et je me retourne, je dis: mais enfin, Daigo, tu veux dire quoi, c'est qui Daigo? Mais enfin, tu veux dire le Daigo? Et là, je me retourne et j'étais mais complètement tétanisé, tu sais. C'est comme si quelqu'un, je sais pas, il y a quelques années, tu vois, je sais pas, les Beatles, ou plutôt une comparaison plus apte, une gamine qui voit les One Direction, tu vois. J'étais en mode fan complet, j'osais plus bouger, je regardais et je me disais, je pourrais dire que je l'ai vu en vrai une fois dans ma vie, quoi.
Ouais, du coup, moi, c'est vrai que j'ai pu les voir aussi de près. C'est toujours sympathique de leur dire bonjour, parce qu'en plus, comme on arrive le matin, tu sais, t'as tout le monde qui arrive en même temps, c'est rigolo. T'as même une espèce d'ambiance autour du stun, où comme on arrive un peu avant l'ouverture au public, tu sais, t'en as quelques-uns qui sont venus, alors ils viennent vendre des vieux sticks qu'ils ont, qui font dédicacer pour les vendre à des fans, des trucs comme ça. T'as toute une espèce d'ambiance autour de ça, même si évidemment, les Japonais, ils sont connus, tu sais, pour leur exubérance, le transport, leur émotion. Il y a une photo extrêmement cool où tu vois Ken Bogard qui est en train de lever les bras en disant: ouais, c'est Daigo qui a gagné. Puis tu le vois à côté, il a gagné. T'as l'impression que tu viens de lui annoncer la mort de son chien, quoi. Mais malgré tout, c'est vrai qu'il y a une ambiance pendant le jeu de baston. Alors, pour connaître quand même des gens de bas gros points ou un peu 3 hits, faut savoir que Street, il a cette particularité, c'est qu'il permet justement le comeback. Et dans un match, dans le sport, qu'est-ce qu'on aime bien? C'est les underdogs une fois à terre, se relèvent, tu vois, et repartent de rien, façon Dragon Ball Z Super Saiyan, tu vois, au bord de la mort, ils sont encore plus forts. Et là, c'est ce qu'il a fait. Et c'est vrai que remonter le loser bracket, c'est pas évident. Et derrière, face à Infiltration qui était vraiment un bon niveau, derrière, j'ai pas vu le match, je l'ai vu en VOD comme toi, ça envoyait du pâté. Et puis l'ambiance dans la salle, tu l'as vu, hein, c'est des gradins, machin, bidule, sa gueule. C'est un truc à faire. Et moi qui suis pas très sport tout court, je suis pas plus e-sport, hein, c'est pas parce que c'est du jeu vidéo que ça me plaît plus, mais c'est vrai que t'es tout de suite emporté par l'ambiance, quoi. Tu peux pas faire autrement.
J'avoue, c'était bon. Donc voilà, on vous en a fait assez. Si vous ne vous intéressez toujours pas au Stunfest / à l'e-sport, je sais pas ce qu'on peut faire pour vous. Il y a plus rien à faire. Mais là, donc, vous avez de quoi avoir l'eau à la bouche. Et ce Stunfest, vous pouvez peut-être jeter un coup d'œil dessus pour l'année prochaine. Et moi, ce qui est sûr, c'est que j'hésitais à acheter la version PS4 de Ultra Street Fighter 4 qui va sortir pour 25€ là, demain au moment où on enregistre. Là, c'est sûr, je vais l'acheter, c'est pas possible. Donc, Capcom fait bien son boulot en finançant un petit peu d'événements e-sport. Il donne envie. Et moi, en tout cas, ça a marché pour moi, quoi.
Ah bah ouais.
Autre gros événement de cette. ces dernières semaines, enfin de cette dernière semaine, c'est la sortie de The Witcher 3. Évidemment, énorme jeu dont on n'a pas forcément besoin de dire grand-chose parce que tout le monde le connaît plus ou moins, au moins de réputation, basé sur une série de livres extrêmement populaire en Pologne, développé par CD Projekt dont on a parlé avec GOG la dernière fois, qui est un développeur donc qui a réussi à gagner le cœur des fans en ayant un développement et une approche du jeu assez généreuse, j'en parlerai dans un moment. Donc le Witcher 3 est sorti, c'est encore un jeu de rôle, un jeu d'aventure basé sur donc le personnage de Geralt de Rivia, qui est ce Witcher qui vit dans un monde d'heroic fantasy un peu particulier, et il passe d'une direction un petit peu plus guidée à une direction très open world. Donc The Witcher 3 est le premier essai de CD Projekt dans un vrai open world. Donc on pouvait s'attendre à ce que le jeu soit bon, personne ne s'imaginait qu'il aurait été mauvais, mais par contre il semble que l'essai soit vraiment transformé parce que toutes les reviews semblent à peu près unanimes. C'est une grosse réussite. Je sais que toi tu as fait la review de Gamekult, justement. Tu peux nous en dire deux mots. On fait pas non plus de grosses reviews de jeux dans l'émission, mais juste nous dire ce que tu en as pensé. Tu l'as joué de fond en comble.
Ah bah ouais. Bah en deux mots, c'est facile. Ça tue.
Voilà. D'accord.
Non, ça renvoie vraiment du pâté. Je lui ai mis la note maximale disponible sur Gamekult, qui est de 9 sur 10, puisque le 10 sur 10, la prochaine fois qu'on envisagera de le mettre, on déclenchera un plan hors-sec ou on appellera l'OTAN ou l'ONU, on sait pas. Mais c'est pas pour demain, en tout cas. Et vraiment, tu sais, c'est pas si évident que ça, parce que tu disais, on s'attendait pas à ce qu'il soit mauvais. C'est pas si évident, parce que nombreux se sont essayés à faire des RPG en open world. Globalement, ils tiennent pas trop la route. Et là, par contre, ce qui est vraiment impressionnant, et c'est ce que j'ai relevé notamment dans mon test, et je pense qu'il y a eu pas mal d'autres tests, j'en ai pas lu un seul en fait, pour être tout à fait honnête, parce que à peine j'ai terminé de rédiger et de jouer, parce que j'ai bouclé l'histoire principale au bout de 70 heures, pour t'imaginer le temps de jeu nécessaire en termes de contenu. Et bah du coup, j'ai dû partir direct vers d'autres aventures, notamment le Stunfest. Et du coup, j'ai pas trop lu ce qui se passait chez les reviews US ou même françaises, donc je suppose que ça doit être des très bonnes notes. Moi,
oui,
pour ma part, vraiment, c'est
bah
si c'est pas lui le jeu de l'année, c'est ce que je disais un peu en off. Si c'est pas lui le jeu de l'année, j'ai vraiment hâte de voir lequel ça va être, parce qu'il va mettre une énorme claque. S'il y a quelque chose d'encore mieux qui sort cette année, waouh quoi, putain, 2015, ça va envoyer du pâté quoi.
J'ai pour habitude dans mes autres émissions de faire les recommandations d'une manière assez particulière, c'est que je dis soit je le recommande pas, soit je recommande aux gens qui aiment ce style de truc pour de la musique ou des films ou ce genre de musique ou de film, ou là en l'occurrence ce genre de jeu, ou alors il est tellement bon que on peut le recommander à vraiment n'importe qui, même si vous êtes pas spécialement fan de ce type de jeu là. Si vous aimez les jeux vidéo, a priori celui-là vous l'aimerez. Est-ce que celui-là The Witcher 3 rentrerait dans la catégorie genre c'est tellement bon que faut y aller quels que soient vos goûts? Bon, évidemment, si vous détestez ce genre de jeu, c'est pas forcément la peine, mais...
Oui, bon, à part si vraiment vous êtes allergique aux jeux de rôle et au monde ouvert, là, ou à l'heroic fantasy de manière générale, vous risquez d'être forcément pas comblé. Pour le reste, c'est un classique. Le jeu, il redéfinit le standard de l'open world, qui était a priori, on va dire, à peu près tenu par les mecs de chez Bethesda avec Elder Scrolls, donc notamment Skyrim, qui a eu un gros succès populaire ces dernières années. Très sincèrement, il enterre tout ce qu'on connaît à tout un tas de niveaux, et je veux bien qu'on les développe si tu veux. Mais c'est vrai que bah, pour moi c'est un classique, c'est-à-dire que maintenant en gros les jeux, on va pouvoir, tout ce qui va être RPG open world, on va pouvoir les juger par rapport à lui, qui devient typiquement le maître étalon. S'il y a des trucs mieux qui sortent, bah, ils seront vraiment exceptionnels, et tous les autres risquent d'être un petit peu en dessous, parce qu'il va quand même falloir se sortir les doigts en termes de direction artistique, en termes de gestion de la quête principale, des quêtes annexes, d'écriture, même de gameplay. Il y a des très bonnes choses qui sont sorties de tout ça, et je sais que toi t'es en train d'y jouer, donc tu vas pouvoir également partager ton opinion.
Ben justement, moi j'y ai joué, je sais pas, 5-6 heures, j'ai pas joué énormément. C'est marrant parce qu'en 5-6 heures, parfois il y a des jeux qu'on finit complètement, mais là c'est le tout début encore. Et j'avoue que au-delà de toutes les réussites qui sont vraiment réelles, au-delà de toutes les réussites techniques, moi le truc qui m'a vraiment plu, c'est que je retrouve un truc que je n'ai pas eu depuis, justement t'évoquais Bethesda et Skyrim, depuis Skyrim, c'est cette impression de liberté totale et l'envie simplement de me balader. Alors je me mets à cheval, je me balade, je navigue au flot des points d'interrogation que je vais découvrir à droite à gauche. La quête principale, bon évidemment, il y a une certaine urgence dans la quête principale, donc il y a une petite dissonance cognitive dans le fait qu'on soit en train d'aller aider des villageois ici ou là, alors que on devrait aller continuer la quête principale. Mais bon, si on fait fi de cette toute petite dissonance, comme je disais. C'est vraiment tu te balades, tu apprécies les environnements, les aventures. Peut-être un point vraiment positif, c'est que toutes les quêtes, en tout cas toutes celles que j'ai fait, c'est un truc dont on parlait pas mal avant la sortie, elles sont toutes cohérentes. Il y a pas de quête idiote, c'est-à-dire que même les trucs, il y en avait une où une nana me demandait de récupérer sa poêle à frire qu'elle avait prêtée à quelqu'un et qu'il l'avait ce quelqu'un l'avait pas rendue. Et ben tu vas essayer de retrouver la poêle à frire, je spoil un tout petit peu sur cette mini-quête, et il se trouve que ça pue dans la maison qu'elle regardait de l'extérieur. Ben, elle se rendait compte que ça pue, mais ça pue parce que le type est mort, et en fait, il voulait pas la poêle à frire pour cuisiner quelque chose, mais pour prendre la suie qui était dessus pour écrire une lettre. Alors ensuite, quelle est l'importance de cette lettre, pourquoi ? Donc, même ce genre de truc, il y a quelque chose derrière. Toutes les histoires annexes pourraient presque être, en étant développées, un jeu à part entière. Ça, c'est vraiment une bonne surprise. Donc, à ce niveau-là, vraiment, moi, je suis très satisfait et je retrouve ce sentiment de liberté que j'avais dans un Skyrim ou dans un Red Dead Redemption, plutôt. Et que j'avais pas réussi à retrouver dans les autres jeux à monde ouvert, notamment Dragon Age Inquisition, que j'avais pas du tout aimé, moi. Mais quels sont les trucs qui t'ont paru les plus positifs dans le jeu ?
Ouais.
Enfin, je sais pas. Tu disais il y a quelques trucs.
Il y a vraiment des très bonnes choses. C'est-à-dire que comme tu l'as dit, les quêtes annexes, ils ont réussi à pas faire en sorte que ça soit justement l'écueil de Skyrim ou de Dragon Age Inquisition des va tuer des trucs et revient. Ou ça arrive, mais c'est suffisamment rare pour pas qu'on s'en rende compte véritablement. Je pense que ce qui est vraiment le plus fort qu'a réussi à faire The Witcher 3, c'est de faire en sorte qu'il y ait un truc qu'on oublie, mais qui est peut-être pour moi le truc le plus essentiel pour que ça soit un vrai jeu de rôle qu'on ait face à nos yeux, c'est que le joueur, il ait un impact et que cet impact sur le monde dans lequel on évolue, il soit mesurable, quantifiable, tu vois, qu'on puisse l'évaluer. Et un truc que je supporte pas dans les Elder Scrolls, c'est que tu as beau faire ce que tu veux, le monde s'en fout. On te dit, tu as sauvé le monde, t'es devenu le maître de la guilde, je sais pas quoi. T'as beau être le maître de toutes les guildes de Skyrim, le premier paysan que tu croises, il te crache au visage et il te parle comme si t'étais un clodo. Et ça, c'est pas du tout le cas dans The Witcher 3. Ce que tu fais, ça a un impact au-delà de ce que tu vas mesurer, puisqu'il y a une espèce d'effet papillon qui se crée à des moments où tu vas prendre un choix qui paraît anodin, mais 10-15 heures plus tard, t'auras l'occasion de le voir, j'espère, tu vas te rendre compte que t'as provoqué quelque chose de grave, puisqu'en plus, le monde étant ce qu'il est dans The Witcher, il réussit à ne pas être manichéen, donc on est toujours en quoi qu'il arrive, on va regretter ce qu'on a fait, parce que le monde, malheureusement, ça se passe pas si bien que ça, c'est pas avec du happy ending ou des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyablement plaisant quand on est un rôliste qui vient de l'univers du jeu de rôle ou quoi, parce que c'est quelque chose qui manquait souvent dans les jeux de rôle sur ordinateur et qu'on retrouvait, par exemple, il faut remonter très loin en arrière à l'époque des Fallout, des choses comme ça, où là, on savait, tu vois, on détruisait une ville, on devenait maître d'une ville, tout le monde nous parlait, etc. On retrouvait ce sentiment-là. Et dans The Witcher, ils ont réussi à faire ça. En partie, je pense que c'est une des grosses réussites. Et si je devais en citer une autre, c'est la capacité du jeu à ne pas être pris en défaut, peu importe l'ordre dans lequel tu le fais. C'est-à-dire que si tu choisis de faire ta quête principale, tu vas forcément aller relativement vite, ça va être relativement linéaire et dirigiste, puisque tu vas du coup suivre l'aventure de Geralt qui est à la poursuite d'une personne, voilà, pour pas en spoiler plus. Et par contre, à n'importe quel moment, tu peux choisir de t'éloigner de la quête principale, comme tu le disais, en quelque sorte, ça surprend, parce que du coup, tu devrais être dans une urgence, mais bon, rien ne t'empêche d'aller aider la veuve et l'orphelin et de gagner quelques pièces d'or au passage. Et en gros, peu importe le moment où tu choisis de faire des choses de manière annexe, à part à certains moments clés, quand tu vas revenir vers la quête principale, le jeu va le prendre en compte. Et par exemple, je te donne un exemple tout bête, tu vas par exemple pendant la quête principale te friter avec un groupe de bandits qui appartient à une mafia locale ou un truc comme ça. Si dans une quête annexe, tu les croises également, ton expérience de la quête principale va influencer les dialogues que tu vas rencontrer quand tu vas être face à ces gens-là. Et à l'inverse, si par exemple dans une quête annexe, sans le faire exprès tu découvres une cave avec un trésor ou quoi que ce soit, et que plus tard tu croises un paysan qui te demande d'aller vérifier cette cave là, il te dit bah j'y suis déjà allé par hasard et voici ce que j'ai trouvé, et tu peux négocier une récompense, etc., etc. Et ça, c'est extrêmement impressionnant parce que ça sous-entend une espèce, tu sais, je suppose que tu imagines des milliers de tableaux à la suite avec toutes les quêtes et des enchevêtrements, et le jeu n'est pas pris en défaut ou très rarement.
Ouais. Donc effectivement, je crois que là aussi, si on vous a pas convaincu, je sais pas ce qu'on peut faire pour vous, quoi. C'est
ah ouais,
rare
non,
d'avoir
c'est,
un... c'est rare d'avoir une recommandation assez inconditionnelle comme ça, ou presque inconditionnelle. Je crois que si vous aimez les jeux vidéo, c'est un jeu à ne pas rater. Avec ce tout petit bémol, peut-être, si on peut dire que c'est un bémol alors que c'est simplement une caractéristique, c'est qu'effectivement, il faut compter sur l'idée que l'aventure va durer plusieurs dizaines d'heures au minimum, même si on ne fait que l'aventure principale. Moi, ce que je me dis, c'est que même si vous y passez 10 heures ou 12 heures et que vous ne finissez pas l'aventure principale, c'est quand même un truc qui vaut la peine d'être vécu, quoi. Donc, c'est même si vous n'avez pas énormément de temps, vous n'êtes pas forcément absolument obligé d'aller au bout du jeu pour en tirer votre argent. Je pense que si vous êtes quelqu'un, si vous avez moins de temps, si vous avez un boulot qui demande beaucoup de temps et une famille, vous dites pas « je vais passer à côté parce que je le finirai jamais ». Plutôt que d'acheter un autre jeu au même prix ou qui vous tiendra 10 heures, si vous dites « je vais pouvoir jouer pendant 10 heures à tel jeu », et ben peut-être que The Witcher, bon c'est forcément un peu frustrant, mais c'est vrai qu'il y a cet élément. Vous pourrez pas le finir en moins de minimum 40, 50, 60 heures, quoi. J'ai été assez surpris, moi, de voir que même la version normale avait énormément de petits bonus dans la boîte. C'est à quel point aujourd'hui on n'a plus l'habitude de ce genre de choses. Il y a un CD avec la bande originale du jeu, il y a des autocollants, il y a un petit compendium, il y a une carte. Moi, quand je l'ai ouvert, je me suis dit, mais est-ce que j'ai acheté une version Day One ? Est-ce que j'ai acheté... Et c'est assez fort de la part de CD... Enfin, on sent l'amour et la sincérité de CD Projekt dans même jusque dans la boîte, quoi. Y a même un petit mot des développeurs qui vous remercient d'avoir acheté le jeu. Évidemment, tout est toujours commercial, mais dans un monde où tout est commercial, ce type de commercial, ça fait vachement plaisir. Et moi, du coup, je me suis surpris à m'attacher à cette société et à devenir fan de cette société rien que par ce petit geste qu'il n'était pas obligé de faire. Donc, c'est quelque chose qui est assez connu des amateurs de CD Projekt, mais là, ça m'a marqué, quoi. Donc, voilà. Et de l'autre côté, il y a eu une petite controverse qui, à mon sens, n'est pas hyper justifiée, mais dont on peut comprendre qu'on en parle. C'est cette idée que les visuels, les graphismes de The Witcher 3 sont très en dessous de la première vidéo et même peut-être d'autres vidéos qu'on avait vues il y a 2 ans maintenant, lors de la présentation. Et c'est vrai que ça rentre dans ce cadre marketing slash aléa du développement où on se dit que il faut jamais croire les vidéos qu'on voit à un an ou même jusqu'à ce qu'on ait vu le jeu lui-même, il faut tout prendre avec un grain de sel. Alors là, en l'occurrence, ils ont expliqué que c'était d'une part parce qu'ils avaient dû changer de moteur de rendu, d'autre part parce que ils avaient montré la démo dans un environnement limité et que quand on fait les choses en open world, il faut forcément faire les choses un petit peu différemment, ça affecte le développement. Et enfin, parce que puisqu'il fallait, et ça c'est l'argument des PC Master Race furieux, puisqu'il fallait faire une version console aussi, et ben forcément il fallait niveler un petit peu le niveau graphique avec cette note importante que s'il n'avait pas aussi eu une version console, et ben il n'aurait jamais eu le budget pour développer un jeu aussi ambitieux uniquement sur PC. Donc c'est à noter également. T'en penses quoi toi de cette mini controverse?
Je sais pas dans quelle mesure on peut être grossier dans ton podcast, donc je vais me retenir.
Mais
c'est encore une fois beaucoup de bruit pour pas grand chose. C'est pour moi, si tu veux, il faut qu'on arrête en fait de prendre trop en considération les élucubrations et les gesticulations de gens sur des forums. Alors ça va sûrement faire hurler, mais il faut bien se rendre compte que bien souvent ça gueule, mais au final il se passe pas grand chose. Beaucoup de gens ont gueulé par rapport à des screenshots, ils n'ont jamais touché au jeu. Je l'ai terminé le jeu, si y a un truc qu'on ne peut pas enlever au titre, c'est que d'une, avec le patch ça, avec le patch récent là, qui est sorti sur Play 4 à la sortie, le jeu est fluide malgré tout ce qu'il affiche. En termes de direction artistique, c'est complètement incroyable tout ce qu'on voit visuellement. Et surtout, on s'en fout, quoi. À un moment donné, on vous emmerde avec vos graphismes. C'est pas ça qui fait un jeu vidéo. On en a rien à péter. Enfin, personnellement, j'en ai rien à péter. Si mon jeu, il est fluide, que mon jeu, il m'envoie du rêve, je suis content. Si, en plus, par-dessus, il y a du il y a des jolis visuels, c'est super. The Witcher 3 s'en sort très bien. La version PC, elle s'en sort non seulement très bien, non seulement il y a déjà des petits tweaks graphiques que tu peux rajouter si t'as une bécane de guerre. Parce qu'il faut bien comprendre que ça concerne un pourcentage
une infime
de
partie
gens.
Des joueurs. Oui. Enfin, mais bon, c'est, il faut, pour être 100% honnête, il faut admettre que c'est moins beau que la première vidéo qu'ils avaient montrée.
Mais ça, ils l'ont dit, c'était un truc qui était développé. La Play 4 était même pas sortie. Ils savaient même pas les specs sur lesquels ils allaient développer réellement le truc. C'était un proof of concept. Alors après, je suis d'accord que ça choque. Je suis d'accord qu'il y a des gens qui soient
c'est
surpris.
C'est frustrant pour
on
ceux qui...
On n'est pas dans le cas d'un scandale façon Watch Dogs ou Dark Souls 2, puisque là, c'était vraiment du... on vous montre quelque chose, on vous fait jouer à quelque chose et en réalité, derrière, c'est différent. Là, c'était simplement quelque chose qui, dès la deuxième vidéo de The Witcher, on retrouvait le même rendu que ce qu'on a eu au final. Alors après, encore une fois, je pense que simplement, il faut... je sais pas trop. Si tu veux, je me dis, oui, on montre des beaux graphismes, oui, on fait un peu rêver les gens. Maintenant, il faut aussi se rappeler que c'est pas ça qui fait un jeu vidéo. Et s'il vous plaît, n'encouragez pas ce genre de polémique en donnant raison aux gens qui restent persuadés que les graphismes font un beau jeu vidéo. Surtout que, dans le cas de The Witcher 3, on est passé d'une gamme de couleurs super terne, gris dégueulasse, avec des nuances de marron et de caca, comme on avait dans The Order et tous les jeux récents qui, moi, personnellement, à titre perso, voilà, ça me sort par les yeux, j'en ai ras-le-bol du photoréalisme. Là, on a des belles couleurs, on a des beaux aplats, on a un côté presque peinture à l'huile, un peu, des fois impressionniste dans le choix des couleurs et dans la manière dont la végétation se bouge, etc. Et c'est très joli, ça crée un véritable univers différent, et vraiment, au bout d'un moment, voilà, quoi, le photoréalisme et tout ça, on s'en fout, quoi.
C'est vrai que le truc aussi qui est différent et très notable avec The Witcher, c'est que le jeu est excellent, alors que là où les gens ont eu tendance à le rallier à Watch Dogs ou ce genre de jeu, bah le jeu, au final, Watch Dogs était décevant dans son ensemble, alors que là, c'est uniquement bon les graphismes qui ne sont pas tout à fait... qui ne correspondent pas à ce qu'on avait vu au tout début. Je comprends qu'on le note, mais c'est vrai que de là à crier au scandale. D'ailleurs, je crois pas que, sincèrement, je pense pas que beaucoup de gens raisonnables aient vraiment crié au scandale. Ça a fait une petite polémique rapide et puis bon.
Ouais, bah comme d'hab. Mais après, bon, CD Projekt, ils ont quand même pris le problème à bras-le-corps. Ils ont communiqué très rapidement en expliquant que d'une, bon, si les gens s'imaginaient qu'ils avaient ça sur Play 4 et Xbox One, je suis désolé de vous le dire, mais le Père Noël n'existe pas. C'était pas possible. À l'heure actuelle, même avec un PC très haut de gamme, avec une GTX 980, etc., on peut commencer à se rapprocher du rendu avec des tweaks et tout, mais encore une fois, ça concerne une infime partie des gens. Si vous avez une console, le jeu il tourne, le jeu il est fluide, le jeu il est joli.
Et puis c'est il est beau, ça. C'est ça aussi, c'est ce qu'on disait.
Tu vois, moi je le trouve vraiment joli, il y a vraiment des super trucs. Alors je peux comprendre que ça surprenne les choix de couleurs, c'est vrai que c'est un peu vif, c'est vrai que c'est un peu...
c'est pas sur ça que les gens étaient... c'était plus sur, ah là il y a de la fumée, là il y a plus de feuilles.
Enfin, t'imagines les genres de discussion, mais regardez là la fissure dans la texture au mur, alors que c'est t'as une zone qui fait je sais pas combien de kilomètres carrés, et là les mecs ils t'emmerdent parce qu'il n'y a pas de mousse dans la fissure d'un morceau de ruine. On marche sur la tête, c'est dommage de trop accorder d'importance à ça. Il faut y faire attention, c'est-à-dire que comme je disais dans le cas d'un Watch Dogs, là clairement Ubisoft s'était foutu des joueurs en plus de pas faire en sorte que le jeu soit à la hauteur, au moins. Parce qu'à la rigueur, tu vois, si le jeu il avait été bon, bon bah tu t'en fais ton deuil des graphismes, comme je disais.
C'est ça, oui. Mais là, c'est ça le gros problème, je pense.
Mais ouais, là, le jeu, il est bon. Le jeu, c'est les mecs de CD Projekt, donc ils ont quand même une bonne réputation en termes de mise à jour, de suivi du contenu et d'ouverture au mode pour que les joueurs PC puissent s'amuser. Donc il n'y a aucun souci. D'ici 3 mois, on pourra faire des choses de fou avec.
Destiny House of Wolves est disponible. Alors, il l'appelle l'extension, une extension, la deuxième extension de Destiny. Bon, c'est, ça n'a d'extension que le nom. C'est un gros DLC, on va dire. Moi, j'avais acheté les deux d'un coup quand le premier était sorti parce que j'avais bien aimé Destiny. Je sais que, en fait, je pense qu'on est arrivé enfin 6 mois ou 7 mois après la sortie à ce que les gens qui n'aiment pas Destiny font leur deuil de ce jeu qui n'est pas ce qu'ils espéraient et laissent les gens qui aiment Destiny tranquilles et leur laissent le droit de bien aimer Destiny, ce qui est quand même une belle situation. J'ai essayé donc House of Wolves un petit peu. J'avoue que j'ai été assez agréablement surpris. Le début en tout cas est meilleur que celui de la première extension que j'avais déjà bien aimé. Mais bon, ça reste du Destiny, ça reste exactement la même chose. C'est un simulateur de headshot en permanence. C'est la seule chose que vous faites dans ce jeu-là. Et comme on dit souvent, si vous aimez bien les mécaniques de tir de Destiny, bah vous aimez Destiny. Et si vous n'aimez pas ça, et bah y a rien du tout pour vous. Je sais pas si toi, j'imagine que c'est pas ton style de jeu, Destiny.
Bah si, en fait c'est mon style de jeu, c'est juste qu'il... je suis désolé, je vais relancer le truc, hein, il est pas bon quoi.
Non.
Il y a pas grand chose à sauver dans Destiny quoi. Et pourtant on m'a convaincu, on m'a montré le haut level, le machin, le bidule, j'ai des potes qui jouent énormément. La seule chose qui leur fait continuer de jouer, c'est qu'ils ont plaisir à se retrouver ensemble le soir à faire leur raid pour la 37e fois pour choper un objet qui leur permet d'avoir un autre objet et qui leur permet de faire un 0,3% de dégâts supplémentaires alors que c'est toujours les mêmes ennemis, les mêmes décors en boucle et tout.
Exactement.
Non, moi j'étais extrêmement déçu. Bon après s'il y a des gens qui aiment ça, bah, super.
Et ben j'en fais partie.
Mais c'est pas grave hein. Tu sais que ça arrive, il paraît que ça arrive à des gens très bien.
Très bien, exactement.
Non, mais vraiment, donc... Destiny, on a essayé. Hein. En plus, pour te, ouais, juste ouais. pour l'anecdote, tu vois, on a essayé chez Destiny. On s'était dit, on a pris un de nos membres du forum qui était vraiment très virulent et qui adorait ça. Et on lui dit, bah écoute, allez, on fait le truc, viens chez nous et explique-nous en quoi ton jeu il est bien. Et il nous a vraiment été de. Voilà, il avait des bons arguments, il avait des bons trucs, mais au final, tout ce qu'il nous a dit, c'est que, en fait, c'est exactement ce qu'on en avait dit. C'est-à-dire que bah, si t'aimes pas Destiny de base, y a rien dans tout le contenu qu'ils ont fait ces derniers temps qui va te faire changer d'avis. Et ça, c'est...
Ah, ça, c'est clair, c'est clair.
Ah bah ouais.
Mais j'irai même plus loin que ça. Si t'aimes pas les 20 premières minutes de Destiny, il y a rien dans la suite qui va te faire aimer Destiny. C'est les 20 premières minutes en boucle pendant des heures et des heures. Sauf que ces 20 minutes, le fait de prendre un flingue et de tirer sur les ennemis... C'est hyper satisfaisant pour les gens qui aiment bien. Et si t'aimes pas, bah t'as rien dans le jeu, rien. Et moi j'adore. Donc voilà.
Alors je note, tu n'as rien dans le jeu, mais j'adore.
Non, tu n'as rien d'autre que ça. T'as une boucle en fait de 5 secondes. C'est je pointe mon flingue sur un ennemi, je tire dessus. Voilà,
ouais, c'est tout ce qu'il y a dessus.
Mais il y a des jeux qui le font plus ou moins bien, tu sais. Il y a jeux qui réussissent plus ou moins bien à te rendre cette satisfaction du tir, cette satisfaction du first-person shooter. Celui-là, il se trouve que pour quelques millions de joueurs, il le rend très bien. Et en tout cas, l'extension, là, amène un petit peu plus de ça. Rien de bien révolutionnaire. Un petit truc marrant quand même, c'est que vous vous souvenez, les auditeurs, qu'il y a un mode en joueur contre joueur où on rentre dans le tournoi, c'est un tournoi permanent en fait, on rentre dans le tournoi et on joue jusqu'à ce qu'on ait gagné 9 fois ou perdu 3 fois, un petit peu dans le mode arène de Hearthstone, et en fait il y avait un petit secret, c'est que si tu gagnes 9 fois avec ton équipe en perdant 0 fois, tu as accès à une zone secrète de Destiny. Ou alors attention, seuls les gens qui ont gagné comme toi peuvent aller. Et la zone, elle est un petit peu pourrave, je vous avoue, mais elle est disponible. J'ai trouvé l'idée marrante, tu vois. J'ai trouvé l'idée marrante.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bon, je vais pas m'éterniser, ça.
Ouais,
je pense
voilà.
qu'on s'étend trop sur Passons. Destiny.
Non, moi je brandis mon étendard de Destiny. Je reste convaincu que le jeu, enfin, c'est pas que je suis convaincu que le jeu est bon, c'est que je suis convaincu que ce qu'il fait, il le fait le mieux de tout ce type de jeu. C'est un jeu qui t'amène en fait un endgame de MMORPG en FPS et c'est le seul qui ait réussi cette formule. Et il y a un endgame, effectivement, t'as des instances à faire, t'as du matériel à choper, t'as des raids, t'as des aventures, des quêtes, et ils ont très bien réussi ça. Et entre parenthèses, un truc qu'ils ont super bien réussi aussi, c'est l'interface, qu'on ne note pas souvent. Ils ont trouvé des solutions à des problèmes d'interface en simulant une sorte de souris au clavier d'une manière qui est vraiment maligne, et ça rend le tout, ça compte vachement. Enfin bref. On pourrait en parler longtemps de Destiny. Moi, je suis convaincu.
Bah c'est dommage que t'aies pas joué à des jeux comme Borderlands ou PlanetSide, quoi, parce que du coup, visiblement, ta culture du MMORPG FPS est pas suffisamment grande pour que tu vois à quel point tu
Borderlands, fais fausse route, mais bon. Je te remercie de cette petite pique. Borderlands, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai complètement fini, et Destiny, c'est exactement Borderlands sans l'histoire.
Ouais. Bah après c'est le feeling. Moi je sais ce qui marche hein, dans Destiny. Tu sais, c'est le feeling des flingues à la Bungie façon Halo. C'est très exactement, orienté ouais. Console, ça marche bien et tout. Donc voilà, je comprends le délire, mais pour le coup dire que c'est eux qui réussissent le meilleur endgame, non. On reviendra un jour si tu veux. On se refera une émission où
on discutera de ça
et on en parlera.
Ça marche. En attendant, parlons un petit peu de Konami en parlant de Endgame. Konami, dont on a beaucoup discuté ces derniers temps avec la séparation avec Kojima, le délisting du New York Stock Exchange, et on se demandait ce qu'ils faisaient, où ils en étaient, et en particulier dans l'émission anglophone Pixels et un petit peu dans le dernier épisode, je me disais, mais est-ce qu'ils sont en train de carrément sortir du jeu vidéo. Je me disais, s'ils voulaient sortir du jeu vidéo, ils ne feraient pas autrement. Et en l'occurrence, on a eu remarque du président de Konami qui a dit clairement, bah écoutez, nous maintenant, le mobile, ça marche, c'est ce vers quoi on veut aller, donc bah, c'est ce qu'on va faire. Et en fait, donc c'est le président qui s'appelle Hideki Hayakawa, et il a clairement dit, bah, nous on fait du mobile maintenant, donc c'est pas tout à fait qu'ils sortent du jeu vidéo, mais ils se concentrent uniquement sur le mobile. C'est un peu triste, quoi. Parce que
c'est même pire que ça.
Ouais, bah vas-y avec le.
Mais non, mais c'est la fin de toute une époque, quoi. Konami, c'est quand même les gens qui ont modernisé le jeu de sport et le jeu de foot en particulier avec ISS et ce qui allait devenir PES plus tard. C'est les gens qui ont lancé donc effectivement Castlevania. C'est les gens qu'on va en parler après. C'est les gens qui ont lancé donc Metal Gear Solid. Ils ont tout un tas de gros trucs à eux et ça va finir en jeu saloperie sur mobile à base de pachinko. Skinner Metal Gear, parce que du coup forcément c'est eux qui gardent l'usufruit du truc. Ah non, moi je m'en fous, parce que bon, Konami, ça fait longtemps que leur jeu il m'intéresse plus, et puis avec ce qu'ils ont fait avec Castlevania Lord of Shadow, je suis très content qu'ils meurent, tu vois, j'ai envie de leur dire bien fait pour eux. Mais malgré tout, ça fait mal de se dire qu'un grand éditeur comme ça décide de tout foutre en l'air pour faire de la facilité et des jeux qui coûtent pas cher à développer et qui rapportent beaucoup parce qu'il y a des boutiques et des systèmes de paiement dégueulasse.
Écoute, je pense que tout est dit sur Konami. Et effectivement, un des trucs dont je me lamentais, mais vraiment, moi, ça me... Enfin, pour ceux, encore une fois, qui écoutent l'émission en anglais, on en avait des trémolos dans la voix. C'était la mort de Castlevania. Et on se disait, mais Konami a un trésor. C'est une des histoires du jeu vidéo. C'est l'un des monstres sacrés du jeu vidéo japonais. Et ils ont des propriétés dont ils pourraient vraiment faire quelque chose. On citait notamment Castlevania. Et comme des prophètes, en fait, on a amené la réalité dans nos rêves, ou nos rêves dans la réalité, puisque on a vu à peine quelques jours plus tard l'arrivée du fils spirituel de Castlevania sur Kickstarter, avec le créateur finalement de cette série, Koji Igarashi, qui a lancé donc ce Kickstarter pour un jeu.
Il a eu un rôle très important dans Symphony of the Night, mais après c'est pas Monsieur Castlevania, tu vois, c'est pas la même chose que dire Miyamoto et Zelda ou Mario, tu vois, c'est pas le lien de parenté est pas aussi violent, quoi.
Oui, c'est vrai. Mais enfin, quand même, je veux dire, s'il y a un Castlevania dont on se souvient plus que des autres, c'est Symphony of the Night. C'est le plus réussi. Enfin, je sais pas, moi, je pense que c'est celui qui reste dans les mémoires du plus grand nombre de joueurs, non?
Ah bah après sûrement, mais là pareil, tu vois, c'est les discussions qui n'en finissent plus.
Oui, c'est vrai.
Non, mais après, dans le côté Metroidvania, de toute façon, Symphony of the Night, c'est celui qui a marqué le truc. Mais bon, derrière, il y a Dracula X, il y a Rondo of Blood, il y a des jeux. Vrai. Moi, je suis un fan en fait de Castlevania. Donc pour moi, depuis qu'ils avaient ben écoute, je vais le dire de manière très polie, chier à la gueule des fans avec Lord of Shadow, en prenant leur histoire et 20 ans d'histoire de jeux vidéo, comme tu l'as dit, et en te foutant tout ça à la poubelle. Moi, ça m'a vraiment fait mal au cœur. Mais par contre, enfin, je sais pas ce que t'en penses. Je vais enchaîner sur, je pense, la suite de ce que tu voulais dire sur le Kickstarter. C'est quand même putain opportuniste de leur part de faire ça à ce moment-là. Le timing, il est certes méga travaillé, mais tu sens aussi qu'ils anticipent. Et à mon avis, ça montre surtout qu'ils savent depuis longtemps que Konami, c'est la fin. Parce qu'ils ont arrivé avec un Kickstarter ultra chiadé, ultra travaillé, etc. Moi, je trouve que ça sent quand même un peu le... Je trouve que ça fait... c'est trop beau pour être honnête, tu vois.
Trop beau pour être honnête, je sais pas. Opportuniste, certainement.
Ah
c'est,
oui.
Enfin, ça clairement, ça pue le plan élaboré depuis au moins quelques mois quand ils ont commencé à sentir le roussi chez Konami. Et clairement, ils ont travaillé le truc. C'est pas un truc qu'ils ont fait en deux jours. On pourrait même imaginer qu'ils se sont dit bon bah on va attendre que ça commence à exploser, on va attendre qu'il y ait les scandales et on va se lancer. Et ils ont hyper bien calculé leur coût. Ils avaient besoin de 500 000 $ et ils ont été, ce que j'ai apprécié en fait, c'est qu'ils ont été hyper honnêtes avec le public. Ils pouvaient pas vraiment se permettre de ne pas l'être, mais alors expliquons quand même de quoi il s'agit. C'est un jeu qui s'appelle Bloodstained, qui est en gros un Castlevania qui est uniquement à l'état de concept aujourd'hui, et qui reprend le meilleur des jeux en 2D du style, avec des graphismes sublimes mis à jour au jour d'aujourd'hui, avec le meilleur de la 2D d'hier et d'aujourd'hui, en fait. Et là où je dis ils ont été hyper honnêtes, c'est qu'ils ont montré simplement trois screenshots en disant c'est des concept art, faites attention, on ne sait pas à quoi ça va ressembler, on a besoin de 500 000 $, mais ce n'est pas pour financer le jeu, c'est pour montrer aux financiers qui sont derrière qu'il y a un intérêt pour ce type de jeu, pour que eux puissent nous filer l'argent en plus, pour le faire vraiment, parce qu'évidemment, ça va coûter plus que ça. On espère le sortir en 2017, mais comme vous le savez, le développement de jeux vidéo, on ne sait jamais trop où ça va, mais notre target, c'est 2017. Et voilà. Et après, on a besoin de 500 000 $, et ça a hyper bien marché. Moi, j'ai vu ça, et j'ai renoncé immédiatement à tous mes vœux sacrés sur les Kickstarter gaming nostalgie, tu sais, genre, ouais, c'est bon, j'en ai marre de tous ces trucs, qu'on nous montre un petit peu des nouveaux jeux plutôt que ça, et je sais qu'il y en a, forcément, ils ont moins de vie visibilité parce qu'il n'y a rien pour attirer les joueurs quand il n'y a pas un développeur qu'on connaît déjà ou un nom qu'on connaît déjà ou un style qu'on connaît déjà, je comprends bien, mais j'en avais un petit peu marre et je m'en cachais pas. Et là, tout de suite, j'ai sorti mes 28 $ pour peut-être espérer un jour avoir un jeu en 2017, voire 2018, qui ressemblera vaguement à Bloodstained qu'on nous a présenté aujourd'hui. Et à la limite, j'ai l'impression que c'est presque un acte de foi. C'est genre... Je donne de l'argent à ce truc. Bon, je veux avoir le jeu au final, évidemment, mais c'est presque pour dire voilà ce que je suis, presque. Ça définit ton identité en tant que gamer. Tu te dis ça me correspond. Donc, je veux lui donner de l'argent. Donc, je veux que ça se fasse. Donc, mais même si ça se fait pas, au final, tu sais qu'il y a une chance que ça se fasse pas. Bon, là, en l'occurrence, ils en sont à 2 600 000 $. Je pense qu'ils ont de bonnes chances que ça se fasse. Mais... C'est presque limite pas si important que ça, c'est même pas essentiel. Enfin, c'est un petit peu compliqué ce que je dis parce que évidemment que c'est essentiel que le jeu se fasse, mais tu comprends ce que je veux dire ou je me perds complètement.
De toute façon, eux, dans leur idée, et c'est là où tu vois que le marketing aujourd'hui sur Kickstarter, il a passé une étape. Maintenant qu'ils ont compris que faire jouer la fibre nostalgique, ça amène Pillars of Eternity, ça amène Torment, Tide of Numerama ou Numenera plutôt, et etc., etc. Ils sont arrivés en disant, en fait, on va prendre le pouls, on va mettre le doigt dans l'eau, tu vois, et le doigt, c'était qu'est-ce que vous voudriez si on vous faisait un nouveau Castlevania? Ça fait des années qu'il n'y en a pas eu un correct. Ça fait des années qu'il y a des gens qui gueulent pour avoir ça. Le machin, il s'appelle Ritual of the Night, tu vois. Symphony of the Night. Bon, si tu veux, c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est le côté opportuniste à donf. Et puis, alors, le coût du « on a besoin que de 500 000 », lol. Enfin, de toute façon, tu regardes leur stretch goal, ils avaient besoin de 2 millions et ils les ont. Donc là, c'est bon, je pense que le jeu, ils vont être contents. Mais tu regardes sur les stretch goals, et vraiment, maintenant, au-delà de 2 millions, ça commence à devenir des trucs un peu OSEF où ils ont rajouté ça à la dernière minute en se disant « il faut qu'on fasse quelque chose ». Tous les stretch goals d'avant, c'était des trucs qui étaient tout à fait envisageables. Moi, par contre, je mettrais un énorme bémol, c'est que sans éditeur, gérer une telle somme d'argent sur une durée aussi longue longue, ça demande des doigts de fée et surtout une gestion de projet exemplaire. Et ça, attention, ça peut être vraiment à double tranchant.
On est d'accord, oui, complètement. Et donc, toi, t'as pas donné tes 28 dollars?
Non, non, non. Bah là, en ce moment, si tu veux, c'est un peu difficile. Il y avait d'autres projets qui me tentaient bien. C'est vrai que malgré le fait que je sois fan, etc., etc., j'en ai fait mon deuil. Je me dis que je prendrai le jeu à la sortie. De toute façon,
ouais. Quand tu sauras de quoi il est fait.
C'est dans 2 ans. Donc, je me dis, d'ici là, ça se trouve, des Metroidvania ces dernières années, il y en a des bons. Donc, je suis quand même content, de ça. Est-ce que je vais retrouver le plaisir que j'avais? Tu parlais d'Aria ou Dawn of Sorrow. Ça fait partie de mes préférés. Est-ce que je vais retrouver ça? J'en sais rien. Mais après, bon, c'est sûr, voilà, j'aurais eu 28 balles à lâcher là-dedans, je l'aurais fait. Mais là, c'était pas le cas.
D'accord. Bon, donc, je suis sûr que d'ici quelques jours, quand Bard's Tale 4 va arriver sur Kickstarter, tu vas te précipiter, puisque tu sais que c'est In Exile qui le fait, qui était derrière Wasteland 2. Là, tu te dis, ils ont déjà prouvé leur truc, et plutôt que d'attendre qu'il soit sorti, là, je peux investir de l'argent. En fait, c'est un investissement sain, et même si t'as pas de quoi manger, tu peux quand même te payer un petit Kickstarter Bard's Tale 4.
Ah bah ouais, parce que c'est clair, c'est un jeu que je ne connais absolument pas.
C'est vrai, c'est vrai que t'es un peu jeune quand même pour Bard's Tale.
C'est pas ma génération, c'est vrai que c'est plus la tienne, Bard's Tale. Moi j'étais vraiment trop gamin quand ça existait encore. Je sais qu'il y avait eu un jeu qui s'appelait Bard's Tale qui est sorti il y a quelques années sur Play 2 PC, mais ça avait rien à voir, c'était un jeu d'aventure, action, qui avait rien à voir avec un jeu de rôle. Et du coup je connais pas, et là du coup je vais pas être super intéressant, parce que j'en pense rien, je m'en fous en fait.
Ouais, moi j'avoue que Bard's Tale, j'en ai des souvenirs très très étiolés, on dira. Je me souviens de mon Amiga qui faisait tourner ces jeux événements, mais bon, je suis pas sûr que je me laisserai tenter là non plus. C'était une seule fois quoi.
C'est difficile, hein, il y a beaucoup de projets. Là, tu vois, bon, je reviens vite fait sur le stun. Il y avait tellement de devs indés, il y avait quasiment toute la scène française qui était là. Ils vont lancer eux dans les mois à venir. On va avoir popé des petits Kickstarter français de gens qu'on avait vus au Stunfest, et là pour le coup il y avait des trucs cool, et tu te dis au bout d'un moment en fait quand tu commences à dépenser plus d'argent dans des projets Kickstarter que dans ton budget d'achat de jeux mensuel, je pense qu'il y a un souci. Mais donc je me dis je vais faire gaffe, et là pour le coup, même si Wasteland 2, tu vois, je l'ai même pas fait par exemple, j'ai ni Wasteland 2 ni Pillars of Eternity alors que je suis un fan de jeux de rôle, mais là pour le coup c'était pareil, je savais que j'aurais jamais le temps de les faire.
Ouais. Bon, disons que je pense qu'on apprend aussi, nous aussi, à gérer Kickstarter comme les développeurs eux-mêmes apprennent comment ça marche. Moi, je trouve que, effectivement, celui de Castlevania est bien conçu et il est honnête, mais on apprend tous, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, au début, j'en ai backé 4-5 des Kickstarter à la file. Maintenant, c'est genre peut-être un par an, voire deux à la limite, si c'est vraiment des projets qui me plaisent. Mais sinon, je me dis, j'attends que le jeu y sorte et ça va, quoi. C'est pas non plus au contraire, c'est beaucoup plus sage d'acheter le jeu une fois sorti, quoi. Parlons rapidement de l'E3 avec des annonces sur Oculus qui présentera son nouveau modèle de Rift le 11 juin, donc un peu avant l'E3 lui-même. Ouais, ils vont avoir une conférence le 11, donc ça va arriver. On a Need for Speed qui va se montrer, on a la conférence PlayStation qui sera diffusée dans tous les cinémas, enfin dans plein de cinémas aux États-Unis. J'ai trouvé ça marrant. C'était déjà le cas l'année dernière, c'était payant. Cette année, ça sera gratuit avec des places limitées, bien sûr, un nombre de places limitées. Je trouve l'initiative marrant. Moi, j'aimerais bien pouvoir aller au ciné avec plein de gens qui aiment les jeux vidéo et regarder la conférence PlayStation. Bon, en l'occurrence, ça sera au milieu de la nuit pour nous, donc c'est pas forcément possible.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. N'hésite pas, viens nous voir à Gamecult, on sera là, nous, à 4h30 du matin. Si tu veux participer, c'est avec plaisir. Ah,
écoute, ça aurait été avec grand plaisir, mais je serai en Finlande, malheureusement.
C'est dur. Hein.
Donc, je le ferai depuis la maison de campagne avec la connexion 150 mégabits. Mégabits symétriques, tu vois.
Bah écoute, ils sont bien en Finlande. Rien que d'y penser, je te plains. Hein. Je sens que ça va être dur comme cadre.
N'est-ce pas?
Ouais, non, mais ça s'annonce gros hein, cette année. Tu vois, premier en tant que pro. Donc, l'année dernière, j'avais déjà fait des streams à titre perso, tu vois, en couvrant le truc toute la nuit avec quelques centaines de personnes. Là, je t'avoue que je m'inquiète parce que ça va être extrêmement fatigant.
Ah ouais, donc ça, moi j'ai fait mon programme, c'est...
Enfin, toi, en plus, t'as connu ça, anglais, en fait, mais... t'as connu ça de l'autre côté, toi, donc tu sais ce que c'est, l'E3, c'est crevant, quoi, c'est surtout ça.
Bah, l'E3, moi, j'y suis jamais allé, mais j'ai fait d'autres salons, effectivement, et c'est... Ah, tu veux dire de l'autre côté, quand on couvre les trucs, oui, j'ai fait ça aussi.
Ouais, c'est quand tu...
C'est
quand,
épuisant,
vois,
ouais.
Il y a tellement de choses, il va y avoir des annonces par dizaines. Alors, ils commencent, tu vois, j'aime bien parce qu'ils commencent petit à petit, ils peuvent pas se retenir, tu vois, et puis ils savent... très bien que ça risque d'être noyé au milieu du flot d'informations. D'ailleurs, c'est pour ça, je pense, que des types comme Nintendo qui dit revenir un petit peu, ou surtout Bethesda qui va tenir pour la première fois une conf à part avant le début officiel de l'E3, tu vois. Donc, on va pouvoir voir des images des prochains, probablement du prochain Fallout, ça c'est quasi sûr, et peut-être éventuellement quelque chose sur le prochain Elder Scrolls, entre autres. Mais ouais, il va y avoir plein de choses oui. Cette année-là.
C'est un très très gros programme effectivement hein, cette année. Je crois qu'on est vraiment enfin dans la génération finalement. Ah bah ça a mis plus de temps qu'avant, je crois, mais.
Bah non, 2 ans, regarde, c'est ça. Je pense que si on revenait en arrière, tu vois, je crois que c'était quoi, 2005, 2006, la sortie de la 360. Il a fallu attendre Gears of War en 2007, 2008.
C'était 2007 Gears of War, je crois que c'était 2006.
Ah ouais, je sais plus.
Ah, je me trompe peut-être. J'avais l'impression effectivement que la PS3 a eu un démarrage beaucoup
2006,
plus lent.
Premier.
Ouais, tu vois. Ouais, donc ouais. On a eu quand même un petit peu plus vite des jeux qui ont marqué la génération sur la génération précédente. Là, c'est un petit peu plus long à l'allumage, je trouve. Mais en tout cas, on semble y être et puis on va avoir le vrai démarrage, non pas de la réalité virtuelle concrète, parce qu'on ne les aura pas, à mon sens, vraiment des trucs intéressants avant. Encore au moins 10-12 mois, donc c'est pas cette année, c'est le début de l'année prochaine que ça va devenir intéressant, et encore le début, voire le milieu. Mais par contre, on a une vraie présentation de tout ça, on a les versions finales qui vont être présentées, on va avoir des dates, des prix, enfin ça se concrétise quoi, et des jeux qui vont arriver effectivement cette année, a priori, des gros jeux qui prennent... On a des jeux de sport, par exemple, qui seront plus disponibles sur la génération précédente. Donc, bon...
Ah oui, là, c'est la fin, ouais. Ça y est, on arrête enfin les conneries de sortir des trucs sur 3.6 et Play 3. Je pense qu'il y a un parc assez installé. Et puis, bah ouais, ils veulent faire transvaser les gens sur la nouvelle génération. Il était temps, quand même, hein.
Donc nous, on aura. J'aurai peut-être un stream. Je sais pas si je pense que je ferai un stream. Mais si je fais un stream, ça sera en anglais certainement, pour pas concurrencer mes potes de Game Culture.
Oui. Ça y est. Ah bah oui. Écoute, heureusement que tu me le dis, parce que là, je suis soulagé.
Je m'en doute. Tu t'envoies un petit message tout de suite, c'est bien. Merci. Il y aura effectivement des pas mal. Ah, il parlait du nouveau Doom d'ailleurs, qui a été teasé. Ouais. Le nouveau jeu de Ninja Theory, c'est les développeurs de Heavenly Sword, etc. C'est un jeu qui s'appelle Hellblade, qui sera développé le 10 juin. C'est un jeu un petit peu bizarre parce que, selon eux, et là on parlait de marketing, ils ont trouvé un terme aussi, ils veulent faire du indie triple A. C'est-à-dire que c'est une équipe de moins de 15 personnes, qui veut faire un jeu qui est hyper, hyper ambitieux, qui a une gueule de jeu triple A. 15 personnes, c'est l'équipe qui a développé Hearthstone quand même. Hein, donc vous voyez la différence entre un gros jeu 3D avec énormément de boulot et de ressources nécessaires, développé par l'équipe qui a développé Hearthstone. Ça me paraît compliqué, mais je suis quand même curieux de voir ce que ça donne. Bref, il y aura plein de choses. Ouais.
Moi, je les aime bien, les petits gars de Ninja Theory. Leur reboot de DMC, au final, il n'était pas si catastrophique que ça. Il y avait des bonnes choses. Et j'avais bien aimé Enslaved aussi, genre jeu d'aventure plateforme. C'était pas foufou.
Ah, c'est vrai que c'était eux aussi.
Ouais, il y avait quelque chose, tu vois. Donc je me dis, en tout cas, ils sont volontaires. Hein. Ça, putain, on peut pas leur enlever ça. Sûr. Les mecs, ils ont envie de faire des trucs, quoi.
Oui, et puis les images qu'on a vues du jeu ont l'air pas mal, hein. Donc.
Il paraît qu'il ne faut pas y faire confiance.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Donc moi, je ne sais pas comment dire.
En tout cas, on aura effectivement l'E3 qui arrive. Il y aura des streams de partout, des conférences de partout. Et on risque de décaler le prochain rendez-vous jeu qui tombe en fait juste avant l'E3. Donc, on le fera la semaine suivante. Et comme ça, vous aurez toutes les infos à retenir. On fera un gros épisode juste quand l'E3 aura fini toutes ses conférences. Quand on aura toutes les infos, je pense qu'on fera un épisode complet en vous résumant tout ça. Donc, s'il n'y a pas de rendez-vous jeu dans 2 semaines, vous inquiétez pas, il arrive la semaine suivante. Une série de petites news rapides. Si vous aimez justement la nostalgie gaming et que vous vous dites moi je veux pas les jeux super remis au goût du jour, je veux les vieux jeux tels qu'ils existaient, il y a une console qui vous plaira peut-être qui s'appelle la Retro Freak qui va sortir normalement en septembre et qui joue les jeux de 11 machines différentes. C'est genre Famicom, Super Famicom, Nintendo, Nintendo Entertainment System, Mega Drive, on prend les françaises et les anglaises, enfin les japonaises et les européennes dans l'eau, Game Boy, etc. Et il y a aussi un petit lecteur de carte SD. Donc,
voilà. C'est bizarre.
Mais je me demande comment ils font pour faire ça, parce que légalement c'est quand même compliqué à mon avis cette histoire. Une console qui accepte, alors elle prend toutes les cartouches en fait, donc c'est censé vous aider à utiliser votre collection de cartouches que vous avez déjà et à la brancher facilement en HDMI, mais elle prend aussi la carte SD et en plus normalement, enfin je sais pas, mais visiblement ils vont de l'avant et ça sortira en septembre. Donc Retro Freak, gardez un œil dessus. Assassin's Creed Syndicate, grosse surprise chez Ubisoft. Il y aura un autre Assassin's Creed cette année. La blague la plus éculée de l'histoire du jeu vidéo.
Non, la blague, ce serait qu'il serait bien, tu vois.
Oh, qu'est-ce qu'il est méchant.
Mais non.
Le truc qui est marrant avec... Enfin, moi, franchement, Assassin's Creed Unity, c'est le deuxième Assassin's Creed que je faisais. Et quand j'ai... passer le choc du fait que c'était exactement la même chose que tous ceux qui étaient venus avant, qu'il n'avait pas évolué depuis 5 ans, que j'avais pas touché à un Assassin's Creed, je me suis pas mal amusé, franchement. Et puis surtout, il était tellement beau. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas vu un jeu sur cette génération de consoles qui soit aussi beau que ça. Bon, je suis arrivé 3 semaines après quand les bugs étaient corrigés, mais même plus, un mois et demi après. Mais il était tellement beau, et puis le truc de voir Paris modélisé comme ça, et en l'occurrence, Syndicate, qui se passera à Londres, c'est ça qui est attirant à chaque fois dans le fantasme d'Assassin's Creed, c'est de se dire explorer cet environnement historique pourrait être intéressant. Ensuite, le jeu, c'est une autre histoire, le genre lui-même. Mais bon, ils ont dit qu'il n'y a pas de multijoueur, donc ils n'ont pas succombé encore une fois à la tentation de cocher toutes les boîtes, un jeu AAA doit avoir ceci, cela, il doit avoir une companion app sur tablette, il doit avoir un mode multijoueur, même si ça sert à rien, il doit avoir tel truc, tel... Là, non, ils se concentrent sur l'expérience single player. Et en plus, ils ont mis dans leur vidéo, une longue vidéo de présentation, bien 2-3 minutes pour s'excuser du ratage qui était le lancement d'Assassin's Creed Unity, que j'ai trouvé, moi, assez courageux, finalement. Ils n'étaient pas obligés de le faire. Je pense que ça aurait, au niveau communication, ça aurait été une erreur parce que la conversation aurait eu lieu de toute façon. Et là, ils ont réussi à la cadrer dans une conversation qui était la moins dommageable possible pour eux. Et à mon sens, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Mais il n'empêche, c'est quand même, venant d'un monde de communication, je peux vous dire que c'est compliqué de faire passer dans la politique de la boîte l'idée de parler des grosses erreurs qu'on a fait et de ramener le focus sur ces erreurs quand on présente un nouveau jeu. On veut toujours que la conversation soit centrée sur les qualités du nouveau jeu et pas perdre 10 minutes à chaque fois à ressasser les problèmes qu'on a eu avant. Et en plus, ils avaient l'air sincères, ils disaient des trucs que je sens. Non mais enfin, franchement, moi ayant
franchement les gars, il faut que vous précommandiez encore une fois ce nouveau jeu. Ça fait quand même 18 épisodes qu'on vous sert, c'est toujours autant de la soupe, c'est toujours autant faux historiquement, mais s'il vous plaît, celui-là, promis, on essaiera de pas trop vous la mettre profond. Moi j'ai vu
tu
ça
sais,
hein.
Bah écoute, ouais, on peut le voir comme ça, parce que vous avez le cœur noir et sombre chez
bah oui,
chez
mais
GK
nous tu sais bien comment on est, hein, voilà, on a cette réputation
que... ouais, non mais c'est sûr que c'est un petit peu ça aussi, mais enfin je pense que maintenant, enfin, on le dit depuis longtemps et je le répète régulièrement, il faut jamais commander un jeu, mais jamais de la vie, à moins que ça soit à la limite The Witcher et que vous avez vendu votre âme à The Witcher 1 et 2 et que vous les avez adorés plus que votre maman. Bah là, vous le précommandez, a priori, vous serez pas déçu. Il y en a genre, je sais pas, un tous les deux ans où on peut commander un petit peu les yeux fermés. Mais d'une manière générale, c'est la plus grosse connerie qu'on puisse faire aujourd'hui qui est de précommander. Donc, pour moi, je prends même pas la précommande comme un argument valide, tu vois.
Ouais,
je me dis juste la manière dont ils l'ont communiqué.
Bien sûr, mais le truc, c'est que dans leur façon de faire, Ubisoft, c'est quand même des gens qui, pour Unity, ils faisaient leur campagne de précommande plus d'un an avant. C'est-à-dire qu'ils ont développé, là, pour Syndicate, on a déjà, je crois, un truc comme 4 ou 5 éditions collector différentes, des éditions limitées, les DLC, les Season Pass, les machins, les bidules.
Ouais, bien sûr.
Enfin, Non, Ubisoft, bon. Pour moi, c'est vraiment, tu vois, ils ont une si mauvaise image, ils ont même réussi à devenir encore plus méchants que EA et Activision réunis, parce qu'il fallait quand même se sortir les doigts pour réussir à faire ça. Et ils sont obligés de reconnaître qu'ils ont merdé très grave avec Unity et que forcément, ils vont devoir faire amende honorable sur le prochain.
Parce mais ils auraient là, pu pas fans, en parler, non?
Bah non, mais comment ils auraient pu éviter ça? Enfin, là, pour le coup, là, tu touchais à un truc de communication où c'était difficile parce que tu avais tellement déçu tes fans, parce que là c'était ça en fait, que t'es déçu des gens tu vois un peu lambda etc, mais quand tu commences à décevoir ton cœur de cible de fans en leur faisant un jeu qui est pas à la hauteur de ce que t'avais montré, qui est pas à la hauteur de ce que eux ils attendent alors qu'ils te suivent depuis des années, tu risques surtout de faire en sorte qu'ils ne le rachètent pas. Donc si tu leur adresses pas un petit message en leur disant on vous aime, on a besoin de votre pognon, ben je vois pas trop comment on pourrait faire autrement. Pour moi ils étaient obligés de faire ça.
D'accord, bah, effectivement c'est une interprétation qui se tient également. Et qui, je pense, est peut-être un petit peu plus réaliste que que la mienne avec mes yeux grands.
Non, mais c'est génial hein, comme attitude. Non, mais je trouve ça super hein, d'être comme ça. C'est bien. Et en plus, si t'arrives à t'amuser sur un Assassin's Creed, je dis bravo.
C'est un exploit en soi.
Ah bah, bravo.
Moi, j'avoue que je me suis amusé pendant bien 7-8 heures, et c'était surtout à découvrir Paris. Et franchement, les petites missions dans les autres époques parisiennes, je les ai trouvées bien trouvées. Il y avait des trucs sympas, quoi. Mais bon, alors, ensuite, c'était mon Assassin's Creed. Je ne sais pas si je vais replonger.
Si c'est le deuxième, en même temps, c'est forcé. Tu vois, tu n'as peut-être pas le côté saturation.
Lassitude,
quoi.
Oui, c'est sûr. Non, et puis franchement, j'ai même moi qui suis pas... qui n'avait pas des attentes énormes, j'ai été choqué par le fait que c'était exactement comme ceux d'avant, quoi. Le gameplay n'a changé en rien. Donc,
Ah bah non, c'est fou.
Bon, autre news rapide, Bloodborne aura une extension, ça surprend personne, mais ça enchante Exerve.
Bah écoute, je l'ai appris, j'étais en route pour le stun, donc j'ai même pas lu en fait le détail de ça, mais ouais, non, ça me...
Et là, tu t'es dit, non, je fais demi-tour, il faut que je vienne faire la fête pour célébrer ça.
Non, même pas, j'en suis pas là, faut pas déconner. Non, j'en suis quand même pas là. Le truc, c'est que bah, de toute façon, je vois pas ce qui les empêchait de le faire.
Non, bien sûr, j'étais là.
Ah ouais, bon bah ça y est, ils viennent d'en parler. Ok, voilà.
D'accord.
Je suis désolé, je peux pas faire le méga fanboy parce que oui, j'ai adoré Bloodborne. Je l'ai trouvé qu'il avait des très bonnes qualités. Je suis content qu'il y ait une extension parce que je trouvais qu'il manquait un peu de. Il y avait un petit goût de pas assez. Ouais. Et du coup, ça va être le cas. Et ils ont quand même une bonne tradition d'extension, notamment sur Dark Souls 1, qui valait le détour à elle toute seule. Donc je me dis, j'espère que ça va être cool. A priori, depuis, on sait qu'on va en voir un tout petit peu à l'E3, justement.
Effectivement. Donc, encore une fois, on se retourne vers l'E3 et on attend avec impatience pour le festival des vidéos qui ne seront jamais comme ça au final quand les jeux sortiront. Grand Theft Auto 5, un chiffre intéressant, 52 millions de Grand Theft Auto 5 vendus. Bon, voilà, je le pose là, hein, on n'a pas besoin de commenter plus que ça. Et entre parenthèses, je ne sais pas si vous aviez entendu parler de ce petit film que la BBC voulait produire à propos de Grand Theft Auto. Rockstar a fait un procès à la BBC parce que visiblement, ils n'arrivaient pas à avoir des informations sur la manière dont leur trademark et leur IP, leur propriété intellectuelle, allaient être gérées dans le film. Et là, on pose une question intéressante qui est... comment est-ce qu'on gère un truc qui est une production qui est censée refléter a priori des événements réels. Est-ce que Rockstar a vraiment le droit de mettre son nez dans la manière dont la BBC va raconter l'histoire, ou est-ce que la BBC a le droit d'utiliser finalement d'une certaine manière pour promouvoir son produit les noms et les identités visuelles qui appartiennent à la société. J'avoue que j'ai pas la réponse. Il semblerait que Rockstar ait voulu.
Sincèrement.
Vas-y.
Je sais pas. Pour moi, c'est une évidence. Évidemment qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Enfin, c'est un organe de presse. Il faut qu'on les laisse tranquilles.
Alors, moi, je dirais, si c'est considéré comme un travail journalistique, oui. Mais on ne sait pas si c'est pas un film qui romance l'histoire de Rockstar. Bah. Et si c'est un si tu veux, si c'est un documentaire, c'est une chose. Si c'est un truc qui est scripté où ils vont raconter des choses qui sont un petit peu limites, tu vois, je sais pas. Non.
Ouais, mais quoi qu'il arrive, j'aurais tendance à me dire que anticiper ce genre de truc pour les empêcher de faire ça, moi ça me pose un sérieux problème. J'aurais préféré, tu vois, qu'ils sortent, qu'on se rende compte peut-être que la BBC allait juste faire de l'opportunisme et faire un truc un peu provoque en dehors de la réalité, et que derrière Rockstar puisse les plonger la tête dans la boue parce qu'ils auraient mérité que ça, mais que on anticipe, pour moi ça me pose un réel problème, vraiment. Ça me pose un vrai problème éthique.
Bah moi j'aurais été très ennuyé aussi, mais il semble que en fait Rockstar a voulu prendre contact avec la BBC pour savoir effectivement quelle était la nature du projet, et la BBC ne répond pas. Et en fait ils sont pas en train d'empêcher la chose, c'est pas pour empêcher le truc, c'est d'après ce que je comprends, hein, ensuite c'est des rumeurs et des bruits de couloir, mais ils veulent savoir de quoi il s'agit, tu vois. Et si c'est effectivement le cas, je comprends que Rockstar, on leur dit « on va faire un film sur vous », ils disent « ok, d'accord, mais vous faites quoi en fait ?» Et là, personne répond. Et t'as de quoi t'inquiéter un peu, tu vois. Si je me dis « je vais faire le film de la vie de Benoît », tu peux te dire, si tu me passes un coup de fil, tu dis « mais tu veux raconter quoi en fait ? C'est un documentaire, tu vas engager des acteurs pour jouer Benoît ?» Et là, je te réponds pas.
Pas plus que ça, parce que le problème est différent, c'est pas forcément, tu vois, la bonne comparaison avec une personne, parce que du coup là on touche vraiment à la vie privée, donc c'est encore un autre problème. Là c'est juste que imaginons la BBC, ils ont vraiment des infos exclues que nous on sait pas sur des réels manquements ou des trucs illégaux qu'aurait fait Rockstar, je sais pas moi, avec des employés ou des trucs comme ça, et que du coup pour empêcher tout ça ils le cachent, c'est leur droit le plus strict. Ils ont, pour moi, je pense que, comme je te dis, je préfère qu'ils le sortent et qu'on se rende compte que la BBC c'est des opportunistes et qu'ils ont juste voulu faire ça pour la provoque, et que derrière ils soient ridiculisés aux yeux de tous, parce que là je trouve que ça fait que mettre leur projet en avant, tu vois, ça, ce genre d'affaire là, je trouve que ça joue, ça ne fait que augmenter une espèce de hype autour d'un truc dont on ne sait rien, puisque même Rockstar a priori n'en sait rien. Je pense pas qu'ils aient vraiment le droit de vouloir absolument savoir ce qui se passe. Ben, si des gens veulent faire un truc, et si demain t'as envie de faire un film sur ma vie, ben écoute, super. plus intéressant à faire de ta vie, hein, comme
contrairement à Destiny, je pense que tu m'as un petit peu convaincu. Donc oui, effectivement, je me range à ton avis. Encore mais si ça se trouve, c'est savamment orchestré par la BBC et Rockstar pour faire du buzz sur leur film.
C'est tellement facile de faire parler d'un truc dont on ne sait rien, qui est même pas produit, dont on n'a pas d'image. C'est génial. Regarde. On en parlait tout à l'heure avec le Kickstarter du jeu de Iga, là. Ils ont juste montré un truc. Le type, il est arrivé. Salut, c'est moi. Et oh, trop bien. On ne sait rien. On ne sait même pas ce que c'est, tu vois. On sent dalle pour un truc aujourd'hui où on ne sait pas. Mais,
Bon, un truc qu'on sait par contre, c'est ce jeu dont la dernière fois que j'en ai parlé, je me suis fait remonter les bretelles par les auditeurs. C'était Project Cars, dont j'ai mentionné que j'ai mentionné comme ça en passant, en disant ouais bon c'est un jeu de voiture, et là je me suis fait engueuler. C'est qu'est-ce que c'est l'acronyme déjà, Community Assisted Racing Simulator. C'est un truc hyper réaliste qui est conçu avec la communauté, par la communauté, avec financement, etc. Qui est disponible, que tu as testé d'ailleurs. Donc très rapidement, hein, ça vaut le coup. C'est pour les fans de courses type Need for Speed, ou c'est uniquement pour les simulateurs, fans de simulateurs fous?
Un peu des deux, parce qu'en fait je lui ai pas mis une note de ouf. Je sais que je suppose, parce que j'ai pas trop regardé, j'ai pas eu le temps, j'ai sorti le test juste avant de partir au stun, donc j'ai dû enchaîner un Witcher puis Project Cars, c'était pas évident. Project Cars, pardon, pour être tout à fait franc, on a demandé l'aide, on a affiné le jeu et un volant à une personne qui est spécialiste en bagnole, donc c'est vraiment fan de ça, qui est capable au bruit de te dire s'il y a un problème mécanique, ce genre de conneries, tu vois. Et moi j'en suis incapable. On a préféré être honnête et jouer la carte du on prend du retard sur notre test. Ça a été pas forcément compris, mais bon, ça c'est toujours un peu l'urgence sur Internet, tu sais.
Ouais, c'est sûr.
C'est connu. Et moi, ce que j'ai vraiment adoré, c'est que c'est un jeu qui permet aux gens qui veulent se découvrir à la simulation de s'y mettre, parce que le jeu, vraiment, c'est très progressif dans la difficulté et dans les degrés de réalisme. Et d'une, c'est le seul du genre pour l'instant sur Xbox One et Play 4, en attendant Forza et Gran Turismo. Donc ça, et ce qu'il fait, c'est que, en tout cas. Tout ce qu'il essaye de faire, il le fait très bien. Il y a des petits égarements, mais en tout cas, moi, j'aimerais dire que ce jeu-là, c'est un peu une espèce de promesse. Tu vois, d'ici un an et demi, il y aura beaucoup plus de trucs dedans. Et pour les amateurs de ça, je pense que c'est un très bon choix.
Project Cars, donc, c'est disponible sur quelle plateforme déjà ? C'est pas que PC, hein ?
Bah, du coup, ouais, c'est Xbox et Play 4. Enfin, Xbox One et Play 4.
Oui, d'accord.
Enfin, il y aura une version Wii U qui ne sortira probablement jamais.
Ah, la Wii U. On va parler de Nintendo dans deux secondes quand on vous aura dit que Nobunaga's Ambition est enfin annoncé pour l'Europe et Guilty Gear Xrd, je sais même pas comment ça se prononce, Xrd.
Xrd,
ouais, Sign.
Ouais, comme Ferd, tu sais, comme si c'était le troisième. Ouais, ouais, c'est vrai que de loin on pourrait croire que c'est mon pseudo, mais non.
Ah oui, effectivement, Xrd.
Ouais. Mais je ne savais même pas, tu vois, comme on l'a testé, nous déjà, je croyais qu'il était déjà sorti en Europe, je ne savais même pas.
Ouais, bah non, c'est... Mais en fait, c'est marrant parce que ces deux jeux, mais plus particulièrement Nobunaga's Ambition, c'est une institution aux États-Unis, c'est un jeu de stratégie qui existe depuis, mais je ne sais pas, ça doit faire
Japon,
plus de 20
ouais.
ans. Oui, pardon, au Japon, évidemment.
Oui.
Et c'est un truc, mais enfin, quand moi j'habitais au Japon, quand il y avait une sortie d'un nouveau Nobunaga's Ambition, mais c'était un événement, quoi. Comme s'il y a un Assassin's Creed ici, ou c'est vraiment un truc de fou. Tu y joues, toi, à ce jeu-là?
Moi,
j'ai jamais touché.
Je fais partie de la team Japon du site, donc je suis assez fan de Tecmo Koei et j'aime bien les Dynasty Warriors, donc dont sont tirés justement
les
Nobunaga.
Ah, mais c'est pas du tout le
même genre. Non, mais tu sais, c'est toujours le même délire, c'est-à-dire qu'on tourne autour de la même idée de jeu vite fait historique sur soit l'histoire de la Chine, soit l'histoire de le Japon. Là, du coup, c'est le Japon en l'occurrence avec Nobunaga, et j'en avais fait un, et c'est vrai que de voir arriver ça en Europe, c'est étrange. Enfin, tu te dis, mais waouh, quoi. Enfin, je me dis que vu le peu de gens qui sont déjà touchés par les trucs style Dynasty Warrior et tout ça, qui sait qu'ils vont réussir à toucher avec une licence comme ça qui débarque de nulle part en Europe, en tout cas.
Bah, je pense qu'il y a quand même, tu sais, chez les fans de Civilization, les fans de tous ces jeux de stratégie, je pense qu'ils peuvent être intrigués par un jeu de cette catégorie qui vient du Japon et qui risque d'avoir des idées et des concepts différents. Donc
j'invite les gens à aller par contre y aller pour la curiosité, parce que justement ça montre aussi que des mecs comme Tecmo Koei, ils sont capables de faire autre chose que les dynasties, parce que c'est vrai qu'on a que ce côté-là de eux, ça et toutes les adaptations à base de Hyrule Warrior, One Piece machin, Dragon Quest Adventure, tout ça, mais ils font des trucs cool hein, quand il s'agit de faire de la stratégie. Et c'est vrai qu'il y a bon, après c'est très romancé, attention hein, s'il y a des historiens japonais dans l'audience, ça n'a rien à voir avec le délire hein.
Mais de la même manière que les Japonais ont une approche différente du jeu de rôle, du même FPS ou TPS ou de tous les types de jeux, moi je serais curieux de voir quelle approche ils ont de ce type de jeu-là, du jeu de stratégie. Spoiler, moi je serais pas surpris que ça soit, vous avez 12 000 unités à gérer une à une et voilà. Mais bon. Connaissant les Japonais. Et donc, Guilty Gear Third Sign, qui est donc la toute dernière version, qui va arriver. Enfin, moi, j'étais surpris. Il était sur le PlayStation Plus américain il y a quelques temps. Et il n'était pas sur le... Je crois qu'il était disponible,
mais
il
n'était
pas dispo en Europe. Et j'étais très frustré, parce qu'ils font partie de ces jeux, en fait. C'est les jeux qui sont les jeux de combat, qui ont gardé la tradition du jeu 2D. Et comme je disais tout à l'heure sur Bloodborne, pourrait être un jeu, un Castlevania 2D avec le meilleur de la 2D d'aujourd'hui, ces jeux de combat-là, en fait, ils ont gardé la tradition 2D en faisant évoluer les choses vraiment en 2D avec le meilleur de la 2D d'aujourd'hui. C'est des trucs qui sont magnifiques en 2D, qui ont des graphismes, mais vraiment, c'est du eye candy tout le temps, c'est des personnages sublimes, c'est du vrai...
Je crois que les persos sont en 3D, hein. C'est juste qu'il y a un rendu cel-shadé qui fait qu'on donne l'impression, mais il me semble
T'es
que c'est
sûr,
des modèles 3D. Ah, je suis quasiment persuadé. Je sais King of Fighters, le dernier, il était entièrement en 2D, animé en 2D et tout. Et là, celui-là, je dis peut-être une connerie, mais il me semble que c'est des modèles 3D.
Non, mais t'as raison,
hein.
Je fais attention, là. Je crois que c'est de la 2D. Hein. Les animations sont un tout petit peu saccadées parce qu'ils dessinent les sprites. J'ai l'impression que c'est de la 2D.
J'ai juste checké vite fait en parallèle la page.
D'accord.
Wikipédia. Il me confirme que c'est bien du cel shading 3D.
D'accord, alors, après, ok.
À vérifier.
Bon, bah, peut-être. Mais en tout cas, c'est un rendu vraiment. C'est un rendu animé, quoi. C'est super, super beau. Et moi, étant un vieux fan des jeux de combat, mais qui a genre plus trop le temps et qui vais m'y remettre avec Ultra Street Fighter 4 sur PS4, là, c'est le genre de jeu que j'aimerais bien voir par curiosité et essayer, quoi. Il y a deux séries, c'est genre les BlazBlue et les trucs comme ça. Et en plus, Guilty Gear a quand même cet héritage un petit peu ancien avec Soul Bad Guy qui remonte à l'époque, quoi, d'il y a des bons vieux King of Fighters, etc. Donc, et King of Fighters, il n'y en a plus eu trop de nouveaux vraiment à succès depuis un moment. Je crois que les derniers étaient plus aussi appréciés que de l'époque de 2008.
C'est sûr que c'est plus le voilà.
Ah bah c'est ça, oui.
Le dernier c'était quoi, King of Fighters 14.
C'est 2013, 2014. Ouais, tu vois, on sait même plus.
Par contre, lui pour le coup, c'était entièrement de la 2D, c'était tout animé à la main.
Ouais.
Si t'es fan de ça, je t'invite à aller regarder 2-3 vidéos, tu vas halluciner.
Bah peut-être, tu sais, mine de rien, moi, King of Fighters, c'est la version 98 puis 2002 qui étaient les monumentales, les versions séminales de King of Fighters. Depuis, il y en a eu d'autres qui étaient pas mal, mais c'est vrai que je les suis plus trop de super près. Peut-être que je devrais m'y intéresser. Il serait peut-être temps.
Allez.
Celui-là arrive. On n'a pas de. Je sais pas si on a une date. C'est maintenant. C'est le 3 juin. Je viens c'est le 3 juin, c'est tout de suite là. C'est en dématérialisé uniquement. Nobunaga's Ambition, par contre, c'est pas pour tout de suite. Hein. C'est juste l'annonce qui a été faite. C'est pour
toujours
le
beaucoup
4
de
septembre.
Temps, Ah oui, 3 juin, effectivement. Eh ben.
3 juin, Guilty Gear. Je sais ce que je vais faire, parce qu'évidemment, dans ma campagne finlandaise au milieu des arbres et des ours, je vais bien surprendre ma PlayStation 4, faut pas déconner.
Ah bah, j'espère bien, il va falloir... Je veux qu'on ait des photos de toi, là, le torse luisant, en train de t'entraîner à combattre les ours, quoi, tu vois.
À combattre les ours et puis de faire mon... Bah oui, en fait, c'est ce que je vais faire. Je vais combattre les ours, je vais... hacher des bûches, casser des arbres et puis voilà.
Voilà.
Mais c'est marrant, c'est vraiment une maison, c'est la maison de la famille de ma femme. Donc évidemment, j'emmène tout mon barda, je vais évidemment continuer à travailler là-bas. C'est l'avantage d'être un podcasteur, je peux en théorie travailler de n'importe où, donc je vais travailler de là-bas aussi. Mais ça sera dans un cadre sympathique et je vous enverrai quelques photos sur Twitter et sur Facebook. Donc vous viendrez avec moi, il n'y a pas de souci. Bon bah écoutez, on arrive à la fin de cet épisode. Je voudrais remercier très chaleureusement Benoît de m'avoir consacré et de nous avoir consacré une petite heure et demie. Où est-ce qu'on peut te retrouver, dis-moi, sur Gamekult bien sûr. Est-ce que tu as d'autres vecteurs internetiens de communication?
Si jamais vous découvrez avec pas mal de retard Demon's Souls, Dark Souls, que vous cherchez de l'aide, mes guides que j'avais fait à l'époque sur YouTube sont toujours dispo, hein, même si forcément... aujourd'hui, ma chaîne, en dehors de Gamecult, ça va être difficile de me trouver ailleurs parce que je passe tellement de temps
Twitter,
sur ça déjà.
Peut-être.
Après, je suis sur Twitter, effectivement. Vous pouvez me suivre, c'est @exerve85, pour l'année de naissance et non pas la Vienne. Je sais plus le nom du département parce que les gens croient que c'est le département.
Ah.
C'est mon année de naissance.
Putain, t'es hyper jeune.
Hein. Ah, je suis désolé.
Oui, non, mais je comprends mieux pourquoi tu connaissais pas du tout, je sais plus de quel jeu on parlait,
Bard's Tale,
oui,
non, c'est pas... Et pourtant, tu vois, j'ai grandi, j'avais un Atari ST, donc l'époque Atari ST, Amiga, j'ai connu, mais j'étais môme, quoi.
Oui, non, mais t'avais un Atari ST, t'avais 4 ans, c'était t'appuyais sur deux touches pour
jeux
faire...
à l'époque, hein, je suis très calé, hein, tu
vois. Ah, vrai.
Tu serais surpris. Avec.
C'est bien, j'apprécie. Bon, donc Exerve, c'est Exerve85 sur Twitter. Pour ma part, vous pouvez me retrouver toujours sur Twitter, c'est NotPatrick. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, toujours sur NotPatrick. Vous pouvez aussi retrouver cette émission et venir nous dire ce que vous avez pensé de toutes les bêtises qu'on vous a racontées sur frenchspin.fr. C'est là que vous trouverez cette émission, donc les derniers épisodes avec les notes et les commentaires et d'autres émissions comme Au hasard, le rendez-vous tech, où on vous couvre toute l'actu tech très simplement, toutes les deux semaines également, en allez, une heure et demie à peu près. Et vous pouvez aussi laisser des commentaires sur cette émission sur iTunes pour aider d'autres personnes à nous découvrir. Ça serait sympathique de votre part si vous appréciez l'émission. Et je crois que ça va être tout. Comme je le disais, on va faire une petite pause, on va décaler le prochain épisode, sans doute, hein, allez, je vais dire à 90%, on est sûr qu'on n'aura pas l'épisode dans deux semaines, mais dans trois, pour être certain d'avoir toutes les infos de l'E3. Et voilà, et on se retrouvera donc à ce moment-là, dans à peu près trois semaines. D'ici là, merci encore à Benoît d'avoir été là. On vous fait à tous plein de bises et on attend vos commentaires sur... Ah, merde !
Ah, tu j'ai vois, pas oublié dit... un truc.
Mais oui ! Comment j'ai pu oublier ça ?
Je
Nintendo a engagé un...
Ah oui, bah tiens, tu vois, le sujet de fin...
Oui, non mais c'est ça. Pourquoi ? Tu pensais que j'avais oublié autre chose ?
Ah bah je m'étais dit, tu dois être encore présent sur 18 autres sites internet.
Ah oui, non,
c'était... Je sais tout, parce que tu es partout.
Bien sûr, mais je fais tourner en fait, tu vois, j'ai une rotation sur les sites dont je parle.
Okay.
Bon, en fait, on s'en fout, c'est juste que Nintendo a engagé un type qui s'appelle Doug Bowser. Et c'est très drôle parce que voilà, c'est Bowser. Okay.
Oui, j'avais vu la news. Tu te dis, le pauvre gars, il a rien demandé en fait.
Mais c'était marrant, franchement. Le communiqué de presse était très drôle. Il disait Doug Bowser. C'est Bowser en français aussi ?
Ah ouais, c'est la même chose. Ouais, le méchant, il s'appelle Bowser aussi. Ouais,
ouais, et donc, c'est le vice-président des ventes aux États-Unis. Et le communiqué de presse disait des trucs du genre Doug Bowser amènera ses décennies d'expérience et non pas son haleine enflammée à son nouveau rôle dans notre société. Il y avait plein de petites remarques comme ça qui étaient marrantes. Bref, voilà. C'est marrant que Nintendo engage quelqu'un qui s'appelle
lui.
Bravo. Et donc, c'est la fin de cet épisode. On vous fait de grosses bises et on vous donne rendez-vous dans trois semaines. Ciao à tous.
Merci, ciao.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.